Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
I haven't seen this type of setup. It's almost like a chemistry type of a set. There's gonna be some. What is this fuck? What is this? Yeah, I don't know. This has got the markings there of so it's definitely alien, but it's not a weapon. But I don't trust it. You know, I don't trust anything that.
You're right, bro. Because you're right.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 secondes.
Nous sommes le vendredi 27 septembre 2013 et après une très longue pause, nous sommes enfin de retour. Bonjour et bienvenue au 19e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast bimensuel des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers les films et séries que nous avons aimés, ou nous avons aimé, comment je parle, ça va. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre site internet 24quark.com, c'est 24quark.com.
Quark.
Et ça fait du bien d'être de retour, j'avais hâte. Cette semaine, on a revu le film sud-africain indépendant, de Neil Blomkamp, District 9.
C'est complètement faux, mais bon, on en parlera tantôt.
Mais c'est quand même...
Quoi, que c'est faux que c'est indépendant?
C'est pas un film indépendant.
Non, nous allons voir ça.
Non, mais le short était indépendant.
Oui. Gardons-en pour plus tard.
OK, gardons-en pour plus tard. Là, tu crées du suspense, ouais. Olivier, c'est fou.
Ouh. Donc voilà, vous les entendez, ils sont...
déchaînés.
Comme toujours avec moi. Et ils ont déchaîné.
Ça fait 3 mois qu'on se retient.
Toute l'énergie accumulée pendant l'été. C'est Marie-Louise Garrier, et puis Olivier Sabineau.
Hello.
Et puis on a le plaisir pour leur tour, le début de cette saison, cette nouvelle saison, cette deuxième saison, on va faire comme les pros, on va s'appeler la deuxième saison de 24 Quark. On a une invitée et qui s'appelle Geneviève Fontaine.
Une fille. Allô.
Une fille geek.
La poulette.
Elle est comédienne et fan de science-fiction.
Oui, clairement.
Et
unique. Ouais. Bienvenue Marie-Louise. Bienvenue Geneviève.
Bienvenue tout le monde.
Ah. Avez-vous tous passé un bel été?
Oui, comme d'habitude.
Ouais, ça a été très long parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans nos vies.
Ben oui, on a un nouveau papa parmi nous, entre
autres. Ouais, je suis un nouveau papa.
C'est un petit peu ça qui a retardé la première.
Pour la troisième fois, je suis papa.
Troisième fois.
D'un petit garçon qui s'appelle Soren et qui est mignon comme tout.
Donc on aurait aimé ça le faire la semaine dernière, mais le bébé naissait.
Voilà,
donc,
c'est ça. On était en plein... Non, voilà. Donc c'est
allez
ça.
Allez voir
donc,
la photo sur le site.
Donc voilà, mais donc c'est pas seulement ça. Enfin, vous autres, vous étiez super occupés aussi. Donc,
non, moi je suis jamais occupée, mais c'est un mythe.
Non, l'été c'est fait pour jouer, tout le monde sait ça.
Je fais ça juste pour avoir pitié, là, puis de raconter des histoires.
Moi je suis en vacances en Antarctique, fait.
Je fais ça pour pas
en
aller.
En Antarctique?
Oui.
Ouais. Oui.
Quand l'été, moi je m'en vais où il fait froid et ainsi de suite.
Elle tournait dans la suite du remake de The Thing.
Ok. Nice.
Comédienne, hein?
Science-fiction!
T'as-tu de beaux projets en ce moment?
Ben oui, en fait, puisqu'il y en a plusieurs, mais puisqu'on est dans un podcast de cinéma, je suis en train de faire une petite intrusion dans le domaine scénaristique. Donc, je suis en train de travailler sur l'écriture. Ben, c'est la base, parce qu'après, c'est une collaboration d'écriture de main en main. Donc, c'est une création, mais à ce moment, je jette les bases. Et c'est toute une aventure d'apprendre à écrire un scénario. Mais heureusement, je suis extrêmement bien encadrée. Donc, c'est une belle aventure.
Cool.
Écrire des scénarios, nous autres, on passe notre temps à décortiquer des scénarios en ce moment. Dans le podcast, c'est un truc qu'on fait beaucoup de dire le scénario, si, telle affaire, on pécadille. Mais pour être en train d'en écrire, Olivier en écrit, j'en écris, on se relie ensemble. C'est extrêmement difficile. C'est difficile là, d'être écrit quelque chose qui est vraiment intéressant, qui rebondit, qui va quelque part, qui n'est pas cliché. Tu te poses toujours la question, est-ce cliché ou pas cliché? Puis là, c'est cliché, tu veux l'enlever, mais des fois, un bon cliché bien placé, c'est important.
Aussi.
tu sais. Puis c'est tout, tout est dans le dosage et tout. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de pratique, puis il faut commencer quelque part. Il faut commencer à le faire, puis il faut pas lâcher.
Mais il y a aussi de faire, OK, il y a ça dans ma tête, je sors de cette manière-là, puis là tu le fais lire aux autres, puis là finalement tu te rends compte que ce que tu as écrit, c'est absolument pas clair pour personne, puis que c'est pas les mêmes choses qui ont été comprises de la même manière. Puis finalement, être précis, c'est hyper difficile quand t'as exactement tout dans ta tête. Mais des fois, le pont se fait vraiment difficilement à l'écriture parce que des fois, c'est juste une question de deux points.
Mais d'où l'importance de le faire.
Ou de précision de mots, exactement.
Moi, je prends le métier scénariste puis je le compare au métier de chirurgien dentaire parce que c'est le même combat.
On n'aime pas les chirurgiens dentaires.
Élabore un peu là-dessus, s'il te plaît.
Non, je vais vous laisser avec ça à réfléchir parce que je veux réaffirmer mon titre de King des jokes plates dans ce podcast cette année encore.
Tu trouves qu'on est trop intello dans notre podcast.
Il faut un peu d'autodérision là, quand même.
Bon. Ben c'est bien. D'ailleurs, je l'ai dit avant qu'on pouvait trouver tous nos épisodes sur notre site, mais alors il y a un truc à signaler aussi, on en reparlera plus en détail à la fin, c'est que on a été invité à faire partie d'une clique
célèbre
du podcast québécois. Non, on a été invité au podcast All Stars.
On est très content.
Et on est très content. Et puis ouais. On donnera des petits détails plus à la fin. Donc c'est ça. Voilà.
C'est drôle parce qu'on a fait un épisode avec Benoît, puis on avait comme niaisé après, qui est des messieurs d'honneur, qui organise le podcast. Puis on avait comme niaisé un peu. Ouais, on n'avait pas été invité la dernière fois. Ben, on faisait rien là. C'est comme on avait fait notre premier épisode le soir du podcast.
Oui, c'est vrai.
Il avait fait comme un petit truc genre et tout. Puis on était comme moi puis Nick, on était comme non, c'est pas pour que tu nous invites. Voyons,
ouais, mais un peu quand même.
Mais un peu quand même.
Cette année, ils vont nous servir du site de glace. Là, on est dans le club VIP du podcast québécois super célèbre.
Ça nous fait bien plaisir, en tout cas.
Non, ça nous fait très cool. Plaisir, c'est très gentil.
Bon, on va se lancer dans le film, alors.
Ben oui, parce qu'on est là pour parler de nous.
On commence la saison avec quoi, les amis?
On l'a déjà dit.
Tu n'as même pas su.
Tu ne suis pas, hein. Olivier, comme Jean-Canet qui parle, là, il est en
t'as
train
bu
de...
T'as bu déjà.
Mais parlons de boire. Avant de commencer, on dit-tu qu'on a des super vins africains?
Mais c'est
oui,
vrai,
parce qu'on est thématique.
On est toujours thématique.
Ouais, donc des petits vins sud-africains. De 2009, en plus, l'année de sortie
2009,
du film.
Est-ce que t'en as un de 2005, l'année de sortie du short?
Non, j'ai pas pensé à ça.
Ça aurait été encore plus.
Au prix, quand même, ça aurait peut-être été un petit peu
intense. Oui, c'est vrai aussi.
Il était déjà limite dans mon budget, ceux-là, là, 2009. mais je connaissais pas les vins africains, puis c'était
donc, je vois
On est au Pinot Noir encore.
Ouais.
Puis là, on
le prochain, c'est un...
Shiraz. Mélange Shiraz.
Oh, Shiraz.
Ça mélange Shiraz avec du Mourvèdre.
Je ne t'entends plus parler dans ton micro, Marie-Louise.
Du Mourvèdre, du Touriga National, du Trincadéry, puis du Cabernet Sauvignon. Donc, j'imagine que ça, c'est des raisins...
Ouais, du rep, assemblage?
Cinq, il y en a cinq.
Shiraz,
mais 46% de Shiraz, du Mourvèdre à 29%. Mourvèdre, je connais pas ça, c'est-tu issu de rien?
Moi non plus.
Bon, on me dirait, je m'entends plus.
Du Tourica National.
Je non plus, je connais pas.
Trincadeira.
Hey my God. Ça...
Et Cabernet Sauvignon.
C'est connaît. Mieux d'être bon, ça.
Ouais, ben écoutez, on va donner le verdict tantôt, parce qu'on va le...
Mais là, il respire actuellement.
Ouais.
Et c'est comment ça. Il s'appelle là-bas le Sijn? Comment ça s'appelle?
S-I-J-N-N. Sijn.
Il doit y avoir un. Si on le prononce en africain du Sud, ça fait.
Sijn.
Ouais.
C'est ça. Bon.
Donc, allons-y.
Je vous fais un petit résumé traditionnel comme j'ai l'habitude de le faire. En 1982, un énorme vaisseau transportant une population extraterrestre très mal en point, apparaît au-dessus de la ville de Johannesburg en Afrique du Sud. 20 ans plus tard, le camp de réfugiés où les extraterrestres depuis surnommés prawns ou crevettes en France. Est-ce qu'ils disent crevettes dans la version
c'est
française?
C'est pas crevettes.
Personne n'a écouté la version française.
Je suis allée voir prawns, puis c'est vraiment un insecte. C'est pas des crevettes.
OK, d'accord.
C'est un insecte spécial. C'est un insecte spécial.
Je pense que c'est un peu péjoratif.
Dans la version doublée en français.
Oui, c'est péjoratif.
Un peu.
Sais pas ce qu'ils disent en français, mais c'est pas des crevettes.
C'est genre un cafard, un truc comme ça, quoi.
Ouais, une sorte de bébé.
C'est un genre de coquerelle, là. C'est un gros, là, peut-être.
Ouais. OK.
Mais qui a écouté la version française?
Donc, les prawns.
La version française?
Oh, mon Dieu. Il y a déjà très longtemps.
C'est sûr.
Quand j'écoute encore mes films en version doublée.
A long time ago in a galaxy far, far away.
C'est ça parce que j'ai fait un suivi du District 9 de Wikipédia, puis il parlait des prawns, puis je suis allée comme, tu vois.
D'ailleurs, il y a une anecdote par rapport aux Browns et par rapport à la
boucle. OK, tout à l'heure, laisse-moi finir mon résumé. OK, donc, 20 ans plus tard, le camp de réfugiés où les extraterrestres depuis surnommés Prawns avaient été parqués est devenu un ghetto militarisé appelé District 9. Où ils vivent dans la misère. En 2010, la compagnie d'armement Multinational United...
Ah non, c'est dégueulasse.
C'est okay, ouais, effectivement, c'est dégueu.
C'est la photo de
Donc, Multinational United, représentée sur le terrain par l'agent Vicus van der Merwe, je ne sais plus comment on le prononce, c'est terrible, s'engage à en expulser et reloger la population de force. Pendant l'opération, Vicus est contaminé par une étrange substance extraterrestre, l'obligeant par la Suisse. Oui, c'est là où j'étais en vacances.
Nicolas.
Ouais, bon lapsus.
Par la suite, à aller chercher de l'aide auprès des prawns elles-mêmes. Voilà.
Et ben c'était tout un résumé. Tu l'as pris où celui-là?
Celui-là, il vient de Wikipédia, je pense. Je dirais un petit peu.
Regarde, t'as pas vu la photo, c'est ça les.
Ouais, effectivement, ça ressemble pas mal à ça.
Entre une sauterelle et une coquerelle.
Ouais.
On va la mettre sur Facebook.
Oui,
c'est
oui. Ouais. Et ça, sauter dans du beurre et un peu de chocolat, c'est délicieux.
Moi, je la trouve.
Voilà.
Bien. Dégueulasse.
Donc, on va faire notre petit tour de table traditionnel. Et puis, pour savoir un petit peu. Quand vous avez vu le film pour la première fois et qu'est-ce que tu fais? Tu prends des photos?
Ah, oui, parce que je voulais le mettre live en même temps qu'on est en train de le faire.
Wow.
C'est vrai.
C'est genre un podcast 2.0. Mais je suis pas sûre que la photo est bonne.
Pendant que tu fais ça, tu peux nous raconter un petit peu quand est-ce que tu as vu le film? Qu'est-ce que tu en avais pensé?
La première fois.
Mon Dieu, la première fois que j'ai vu ce film.
Raconte-nous ta première fois.
Avec un extraterrestre?
Oui.
j'étais dans le bois. Puis, non, en fait, j'ai vu ce film-là il y a quand même quelques années pour la première fois en français. Puis, ça m'avait beaucoup marqué parce que j'avais beaucoup aimé l'humanité avec laquelle il traitait cette histoire-là parce que c'était pas une espèce de truc sensationnaliste des méchants extraterrestres qui viennent envahir les bons humains avec une espèce de rapport bon-méchant. Quoique, il y en a un, mais on n'en parlera pas là.
Là.
Mais fait que j'avais aimé à la base comment il avait traité cette histoire-là. C'est ça. En fait, c'est l'humanité de ce film-là qui m'avait énormément parlé la première fois que je l'ai vu. Et je l'ai revu récemment, cette semaine. Puis ça m'a autant touchée, finalement. Ouais. Mais avec une analyse un petit peu plus approfondie que je pourrais extrapoler plus tard.
Bien sûr.
Cool.
On est là pour ça.
Marie-Louise?
Moi, ce film-là, écoute, je l'attendais avec impatience parce que j'avais vu le fameux...
Live in Joburg.
Live in Joburg. C'était vraiment une de mes vidéos préférées. À cette époque-là, je tripais sur les vidéos virales. Là, j'en regardais plein. Puis j'avais un blog que je parlais de vidéos Internet, etc. Puis ça, c'était une de mes préférées. Je veux dire, je la réécoutais souvent. Puis à chaque fois, je voyais quelqu'un qui venait chez nous. Je disais, regarde, faut que tu vois ces deux-là. C'est un court-métrage. C'est génial. Le thème, l'idée, tout est bon. Puis les effets. Donc, j'étais très déjà vendue au petit court-métrage. On a peut-être pas besoin de rappeler que, mais je vais le faire, puis on n'en parlera plus parce que c'est le genre de truc qu'on répète. Effectivement, il a fait ce court-métrage-là. Après ça, là, des gens ont vu ça, puis ont fait « Ouh, c'est super bon, il y a eu de l'argent, genre 30 millions de Peter Jackson pour faire son film. » Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'ailleurs, tu veux en parler? Toi, tu disais que c'était pas un film indépendant tantôt.
Plus tard.
OK. Anyway, donc, j'attendais donc avec impatience ce film-là. Et j'ai pas été déçue. Quand j'ai vu le film, j'ai trouvé que ça m'a plu qu'il ait gardé l'esprit déjà du petit court-métrage, c'est-à-dire faux documentaire. Ça m'a plu, effectivement,
mais
toute la satire politique.
Le court-métrage, c'était ça. C'était comme juste un topo.
Oui, c'était un topo.
Un topo sur la situation.
C'était les gens qui se plaignaient. Tu avais des Africains, des Noirs africains qui se plaignaient. C'était comme... C'était très...
C'est comme les 20 premières minutes du film, finalement.
C'était une grosse satire parce que c'était comme des Noirs qui disaient des méchancetés que les Blancs avaient pu dire pendant l'apartheid sur les Noirs. Mais c'était comme... C'était vraiment... Il y a un petit côté presque pervers dans la manière dont c'était fait. C'était super bon. Et donc, c'est ça, je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu à sa sortie en 2009, puis on en avait abondamment parlé, toi puis moi aussi, je pense que c'est le genre de film qu'on avait toutes les deux beaucoup aimé, puis on se vautrait dans le plaisir qu'on avait de voir ce film-là. Je l'ai revu cette semaine, mon opinion a peut-être légèrement changé, peu à cause d'un épisode que j'ai écouté de Slash Filmcast, qui m'a fait un petit peu réfléchir, puis tout ce qu'on a dit sur Elysium. J'aime encore beaucoup le film. Je ne veux pas dire que je l'aime pas, que j'ai changé d'idée, mais je vais amener des commentaires qui me font penser pourquoi est-ce qu'on aime autant certains films de science-fiction. C'est peut-être parce qu'il y a un vide de films de science-fiction intéressant. Mais celui-là reste intéressant.
Idée intéressante.
Ouais. Donc, voilà. Mais j'ai plus rien à dire. Olivier, c'est à ton tour.
Olivier, alors, j'ai vu le film la première fois quand il est sorti en vidéo. Donc, en 2010, à ce moment-là. Donc, fin 2009, début 2010. Et je tiens à vous dire qu'au départ, j'ai pas aimé ça.
Ah. Non.
Ce film-là m'a un peu frustré parce qu'il avait été vendu avec beaucoup de force et de comme quelque chose de différent, un film de science-fiction qui sortait un peu de la marge. Puis je pense que ce film-là m'a beaucoup frustré au départ. En le revoyant cette semaine, j'ai beaucoup plus apprécié le film. Même, je peux dire que j'aime ça aujourd'hui, mais il m'a encore frustré, peut-être pour les mêmes raisons qu'au départ. Parce que il y a des choses que je comprends pas. Okay. Ça vient peut-être de la critique sociale qu'il y a dans le film, parce que oui, on parle d'un réalisateur qui a vécu sa jeunesse en Afrique du Sud, puis qui a, dans sa famille, il y a des histoires qui lui ont soit... Je pense pas qu'il a vécu l'apartheid, mais sinon, ses parents... Oui, il l'a vécu. Fait qu'il a voulu beaucoup faire des références à ça, mais il a choisi quelque chose de facilité dans le sens où... On en reparlera tantôt, mais les extraterrestres, des fois, je les trouve un petit peu niaiseux, alors qu'ils n'ont pas l'air si niaiseux que ça,
mais
finalement.
Mais bon, c'est tout le monde.
Il y a un gros problème d'incompréhension entre les deux clans qui me fait mal à l'âme par rapport à la nature humaine. Mais je sais que dans la vie, c'est ça qui arrive des fois. Mais dans le film, quand tu le vois dans un film, c'est toujours plus frustrant que quand tu sais que c'est comme un conflit qui se passe dans la vie. Bref, je pense que c'est plus une critique que j'ai envers la société.
Envers la société.
Plutôt qu'une critique envers du film. Et il a juste fait un portrait de la réalité, mais ça me fait chier de le voir comme
mais,
ça.
Mais d'ailleurs, parlant de critique de la société, on peut-être le dire après, on a eu un commentaire sur Facebook dont on va peut-être tenir compte un peu dans l'ordre qu'on va parler de notre du film.
Mais ouais. Tu t'as fini. Non, en bout de ligne, là, en le revoyant, parce que ce film-là m'avait vraiment fait chier la première fois que je l'ai vu, puis quand je l'ai revu, j'ai été fasciné, comme j'aurais dû l'être la première fois, comme vous semblez l'avoir tous été. J'ai enfin compris qu'est-ce qu'il avait essayé de faire, mais le film m'a laissé avec des frustrations grandes. Je pense que c'était peut-être un peu un de ses buts aussi.
Ouais.
Donc, je pense que c'est un très bon film. Quand même.
Bon, là, finalement, ce signera pas, ça va être plate, Olivier.
J'ai détesté
moi,
ça.
Moi qui étais prête, là, sachant que t'avais pas aimé ça, là, j'avais fourbi mes armes.
Ça fait le fun qu'un jour, c'est toi qui aimes pas le film, parce que d'habitude, c'est toujours moi qui aime pas ça.
Non, c'est pas vrai, il y a des films que j'ai pas aimé, que j'avais pas beaucoup aimé, celui-là, avec les extraterrestres là, qui venaient...
Ah oui, Fire in the Sky.
Non.
Je
m'excuse.
De ma gang,
je te rappellerai, iRobot.
Ah oui, OK. OK, on a peut-être 50.
Mais attends, Independence Day s'en vient.
Ouais, le 2 et le 3.
On va le faire. Oh non, please.
Il tourne à Montréal dans quelques
temps. Oh my God.
J'ai hâte.
Et, que je me demande
et toi, Nick?
Ouais, moi, j'ai vu le film à sa sortie au cinéma avec ma blonde. À l'époque, on avait encore le temps de cinéma de temps en temps. Je sais que les deux, on avait adoré ça. Mais en fait, j'avais vu la bande-annonce, j'avais pas vu le court-métrage avant, je l'ai découvert après. Parce que après, j'ai fait ma petite recherche sur le film et tout. Mais je savais juste, voilà, j'avais vu la bande-annonce, j'avais été assez scotché par la bande-annonce parce que c'était assez,
oui. Mais c'est très d'action. Fort.
Ouais, non, mais en plus, la bande-annonce,
c'était. C'est un film comme un film d'action.
Ouais, en plus, la bande-annonce, il s'était vraiment servi du début du film, là, où c'est vraiment tous les topos, les entrevues TV, machin, avec, tu sais, la sociologue, machin, qui parle, enfin. Et puis, j'étais là, waouh, c'est bon, c'est super bon. Puis, j'adorais l'imagerie, enfin, le peu qu'on envoyait dans la bande-annonce, de voir, tu sais, cet énorme vaisseau spatial, tu sais, qui était comme en stationnement au-dessus d'une ville, comme ça, tu sais, un peu dans la brume, un peu dans, tu sais, ou dans la pollution, tu sais.
Il y a autre Johannesburg, pas de New York ou de Paris.
Genre. En plus, un truc frais, quoi. Genre, tu sais, t'es pas une star, genre rien. Enfin, bref. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu ça, j'étais là, je veux voir ça. En plus, tu sais, tu vois Peter Jackson présente, tu sais, tu te dis, OK, là, on sortait de la trilogie du Seigneur des Anneaux, et puis, genre, tu crois, quoi, Peter Jackson, tu sais, tu te dis, OK, s'il est mêlé à ça, c'est qu'il y a de la qualité derrière.
Donc, comme moi, t'avais de l'anticipation.
Ouais, absolument. Puis, ça a été servi. Enfin, je veux dire, j'étais servi, quoi. J'ai beaucoup aimé ça. Je dois dire que il y a au-delà de tout le discours social, etc., les allusions à l'apartheid et tout, ce qui m'avait halluciné, c'était à quel point c'était plutôt à un niveau technique en fait, À quel point, de nos jours, avec les effets spéciaux, tu peux faire croire à n'importe quoi. Mm-hmm. Tellement ça avait l'air vrai.
C'est un gars d'effets spéciaux qui fait le
ouais,
film.
En plus, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tellement ça avait l'air vrai. C'est le fait que c'est entièrement en caméra à l'épaule. C'était un des premiers qui était fait comme ça.
Style documentaire.
Ouais, style documentaire.
Non, avec... c'est pas un des premiers. Non, pas
dans le style documentaire, mais qui incorporait autant de compositing, c'est d'effets spéciaux.
Dans la caméra épaule. Ok, je comprends.
Ouais, dans la caméra épaule. Okay, jusque-là, ça n'avait pas été poussé à ce point-là. Quoi. Là, c'est le film en entier. C'est pas juste trois plans, c'est le film en entier. Quoi.
Ok, je comprends. Je pense
tellement... Il y avait une telle qualité qu'on était là, on se disait, wow, te rends compte, c'est effrayant. Tu dis comme quoi tu pourrais presque. On extrapolait, on se disait, tu pourrais presque détourner l'information que tu vois au téléjournal.
La qualité des effets, considérant que quand tu lis un petit peu sur le film, tu comprends que tous les extraterrestres ont été faits en CGI, ces caméras à l'épaule, c'est le documentaire, tu fais « Oh my God, la quantité de travail!
Ouais, » hallucinant.
Pas deux secondes parce qu'ils ont décidé de pas mettre trop de détails, juste donner une image un peu télévisuelle, réelle.
Ouais. Non, c'est super intelligemment fait.
Ça marche. Mais je pense que c'est pour ça qu'on embarque autant aussi dans ce film-là, pour cette espèce de couteau-là très terre-à-terre, ancré dans la réalité. On n'a pas l'impression d'être à un film de science-fiction, mais à un réel reportage qui se passe temps. Puis je pense que c'est ce qui marche énormément.
Le film, l'histoire dans la réalité, quoi, ce côté-là.
C'est au lieu de stimuler l'espèce d'imaginaire, on a vraiment l'impression d'être un vrai documentaire qui se passe en temps réel.
Un épisode d'enquête à Radio-Canada.
On en met-tu un extrait, justement, pour avoir le fil à l'audio?
On se met un petit extrait, puis on en parle après.
Now, to everyone's surprise, the ship didn't come to a stop over Manhattan or Washington or Chicago, but instead coasted to a halt directly over the city of Johannesburg. The doors didn't open for 3 months. It just hovered there. Nobody could get in. And they eventually decided, after much deliberation, that the best thing to do would be to physically cut their way in.
In that box, there looks down to the left there. We're going to need a drill down here.
We were on the verge of first contact. The whole world was watching.
Need some more light?
Expecting, I don't know, music from heaven and bright shining lights.
There's a lot of moisture in here.
Just
go slowly. Oh my God.
Ça,
ça c'est le schnz.
La deuxième bouteille.
La deuxième bouteille pour marquer.
Quintuple assemblage sud-africain, délicieux. Voilà. Ouais. Tout comme les films.
Ouais.
Oh. Ouais, c'est vrai qu'il est bon, hein. Très corsé. Donc moi je voudrais dire un petit truc. C'est ça, on a reçu de White Shark, c'est ça son nom?
Ouais. Guillaume Laborie. On n'a pas le nommé.
Il n'est pas déjà venu sur ce podcast.
Non, pas du tout. C'est un inconnu.
Il avait descendu Oblivion avec nous.
De manière magistrale.
On n'y
a laissé aucune chance à ce film-là.
Mais il nous a laissé un petit commentaire sur Facebook pour nous dire, de grâce, parlez pas de l'aspect politique, parce qu'on en a entendu parler. Puis sur le coup, je dis, ma réaction, c'est que genre, on va parler de ce qu'on veut. Guillaume. Mais... mais après ça, je me suis dit, en fait, il n'y a pas tant. Ce qu'il n'est pas en train de nous dire, c'est que ce n'est pas intéressant de parler de la sociopolitique, c'est que, genre, on oublie de regarder le film pour le film qu'il est, puis pour le film de science-fiction qu'il est. Donc, moi, ce que je vous proposerais, c'est qu'on commence par parler du film, le jeu, les décors. On a déjà commencé avec les effets spéciaux, le contexte.
Fiction,
la science-fiction dans le film.
Comment est exprimée cette science-fiction?
Exactement, comment elle est exprimée? Et puis après ça, on pourra revenir avec peut-être notre opinion politique. Comme ça, Guillaume, quand tu pourras décrocher à la fin du podcast, on fait ça pour toi. Donc écoute le début.
C'est pas toi, Guillaume, qui avait parlé le plus de l'aspect sociopolitique. En tout cas, on va te réinviter.
On lui l'invitera pour faire l'aspect sociopolitique de Discutner.
Moi, je te connais pas encore, Guillaume, mais t'es sûrement vachement intéressant.
Mais tu l'aimes déjà.
Un détail important, c'est un film qui est sorti la même année qu'Avatar, donc c'est une grande année de science-fiction.
Oui, hein.
2009.
Puis il y a pas eu le Star Trek aussi cette année-là?
Peut-être.
Le premier, oui.
Le premier Star Trek, c'est cette année-là aussi.
On dirait que c'est des
L'année faste.
Deuxième Iron Man.
Bon, ça se passe.
C'est un super-héros, ça rentre pas là-dedans.
Ça, c'est un débat qu'on a eu une fois sur Twitter. Est-ce que c'est de la science-fiction, le super-héros? Oui, non.
Non, c'est plus du film d'action, je pense.
Puis ça a été un méga succès. Parce que le film a coûté 30 millions de dollars, puis il a fait 300 millions au box-office.
Wow.
200 millions au box-office.
La première semaine a fait 105 millions. La première semaine juste aux États-Unis.
Campagne de marketing hyper efficace. Donc, je te rappelle que le marketing, il faut qu'on le soigne, ça peut marcher.
Oui, mais en même temps...
Tu sais, c'est quoi qu'ils ont fait comme campagne de marketing? Ils ont mis des affiches partout, c'était écrit « Les humains sont pas... no aliens » et tout, puis ils mettaient comme genre « Human only », tu sais. Ouais. Puis là, ils mettaient un numéro de site web, puis un numéro de téléphone pour appeler, quelque chose du genre. C'est vraiment une campagne créative.
Si on fait paniquer les gens.
Mais en même temps, moi, ce que je me demande, c'est... Parce que moi, ce que je me rappelle de la bande-annonce, quand je l'ai vue, quand elle tournait à la télé, c'est j'étais « Ah, un autre gros film d'action d'extraterrestres. » J'ai pas été le voir au cinéma. Mais je me demande si j'avais été le voir au cinéma, est-ce que j'aurais été déçue parce que ce qu'on m'a présenté dans la bande-annonce puis ce qu'il y a dans le film est quand même assez différent au niveau de la présentation.
Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est un film d'action, selon moi. C'est ça qu'on disait tantôt. C'est vraiment un film d'action. Mais c'est à la base un film d'action. C'est surtout un film d'action qui est très original. Moi, c'est ce que j'appelle les bons films d'action. Cette année, on a eu des mauvais films d'action. On a eu un Star Trek qui a été complètement un film d'action, pas un Star Trek. Superman, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu dire c'est la même chose. Elysium, il paraît que c'est comme du même réalisateur.
Ben, c'est un film d'action.
Il paraît que c'est un gros film d'action. Moi, j'ai vu Pacific Rim. J'avais comme mal à la tête à la fin. Bon,
ah ouais? J'ai bien aimé quand même.
Ben oui, mais c'était de l'action.
Oui, c'est un film d'action.
C'était rien d'autre. Donc, moi, l'action, quand c'est District 9, j'aime ça. Parce qu'il y a comme une couche, mais à la base...
Mais c'est pas que de l'action, c'est aussi extrêmement psychologique comme film au niveau de tout ce qui est développé autour.
Mais quand tu regardes le film, là, ce qui se passe surtout, c'est qu'ils courent, là. Tu sais, ça commence, puis avec l'armée. C'est toute la première partie, t'as le faux documentaire, ça commence un peu faux documentaire. Après ça, ils s'en vont dans les camps, puis ils leur font signer les bébelles, là. T'as une impression de camp de concentration nazi, tu sais. Puis là, c'est comme super violent, là. T'as tout bout de champ, là, comme ils se battent, t'as l'armée qui les suit. Ouais, il y a le gars qui est obsédé par la caméra, regarde. Ils font popper les œufs, hein, c'est ça? Ils brûlent les
oui.
Les œufs. C'est comme violent.
Ils dévastent littéralement leur progéniture.
Les humains ont aucun respect pour les extraterrestres dès le départ. Ça établit vraiment le lien de pouvoir entre les deux. Puis
ça bouge tout le temps.
On ne veut pas aller dans le sociopolitique, mais c'est quand même ça.
Revenons au style du film, c'est que ça bouge tout le temps. C'est de l'action et tout. Puis
plus
le film avance...
C'est pas de l'action filmée à la Michael Bay, que moi je déteste personnellement.
Mais ça reste l'action.
C'est de l'action filmée à la style documentaire, mais que tu es tellement dans l'action à cause du style de caméra que c'est comme si tu étais là avec eux puis tu vivais tous les moments avec eux. Ça ressemble pas à... ce qu'on est habitué de voir. Parce que souvent, la bande-annonce nous ment un peu.
Mais c'est là où je me dis, est-ce que j'aurais été déçue? Parce que
moi, je pense
si que... je m'attends à voir un gros film d'action, puis je vois autre chose, je pense que j'aurais été d'autant plus contente de voir ça.
Non, mais attends.
Mais c'est juste ça, parce que, tu sais, un film d'action, c'est genre, ça court partout, il y a des explosions tout le temps, puis on est fucking flabbergasté. Sauf que ça, tu sais, oui, il court tout le temps, mais c'est en... il y a plusieurs moments d'alternance, tu sais, on vit vraiment la transformation du gars, sa fuite, comment il s'adapte, rendu au District 9 quand après sa main qui essaie de se sauver.
Spoiler alert!
T'as une vingtaine de minutes, au moins, où t'as juste l'acteur tout seul, sa transformation, son jeu, il saute de quatre couches de jeux différentes en genre 20 minutes, puis t'es qu'avec lui.
Mais je pense pas que les gens qui vont voir des films d'action, tout ce qu'ils veulent, c'est un film qui non-stop... C'est ça la différence entre un bon film d'action
et un mauvais film
d'action. Ben oui, puis non, parce
que... C'est dommage.
C'est la différence entre des bons puis des mauvais films d'action.
Il y a
moi,
plus
ce que je trouve
de mauvais films d'action que de bons films d'action.
Exactement. Inception, à la base, c'est un film d'action. C'est un film d'action, Inception.
Tu vois, je l'aurais pas mis là-dedans.
Non, parce que justement, il y a un cliché négatif sur le film d'action qui est une espèce de film... Toutes les James Bond, c'est des films d'action. Puis il y a plein de James Bond qui sont excellents, là, tu sais, que t'embarques dans l'histoire malgré que la majorité du film, ce qui définit un film d'action, c'est, on dirait, une sorte de rythme. Écoute, à la fin, là, t'as l'exosquelette puis il lâche des cochons, là, tu sais. Il explose du monde. Viens pas me dire qu'il y a pas du boum-boum-boum, là.
Je dis pas le contraire.
Tu sais, quand il tire, là, le gun, là, les gens, ils sont pulvérisés, tu sais. Ça court de partout. Ouais. Il est là avec.
Oui, mais en même temps, il y a toute la partie où ils font des tests avec lui qui n'est pas nécessairement ancré dans l'action. Il y a une belle alternance en différences.
Alien 2, ça reste un film d'action. Puis un bon film d'action est capable de te raconter une histoire de façon super efficace, tu sais, avec peu de moyens, en mettant en valeur l'action. C'est pas une excuse de faire de l'action, parce qu'il y a des films, on dirait que tout leur but, là, c'est comme genre, je sais pas, t'imagines un producteur de studio. D'ailleurs, on peut en revenir à ça. Pourquoi tu dis que c'est pas un film indépendant, toi? Moi, je...
Parce que ce que j'ai lu sur IMDb, qui est la vérité incarnée tout à l'heure. Ce que j'ai lu sur IMDb tout à l'heure, dans les trivia, qui est la section la plus intéressante, évidemment, quand on fait notre recherche, c'est que Le réalisateur, que je ne me rappelle plus son nom, qui est trop difficile à prononcer.
Neil Blomkamp.
Oui, lui.
Neil Blomkamp.
Était supposé faire la version cinématographique du jeu vidéo Hollow.
Hello.
Qui a tombé à l'eau. Et Peter Jackson, qui s'était intéressé à lui pour toutes sortes de raisons.
Peter Jackson était impliqué dans le... dans la production du film.
Alors, le film Halo a tombé à l'eau. Il a dit, je te donne 30 millions, tu fais ce que tu veux. Et il a décidé de faire un... Je suis sûr que l'histoire n'est pas complète, là. Je suis sûr que c'est pas lui tout seul qui a décidé de faire une version long-métrage de son court-métrage qui avait eu un gros succès. Mais il a comme un petit peu donné carte blanche alors que c'est un gars qui venait des effets spéciaux et qui avait vraiment rien fait nécessairement avant en tant que réalisateur. C'est son premier long métrage.
Qu'est-ce que tu définis cinéma indépendant? Parce que moi, dans ce que tu es en train d'écrire, ça reste un cinéma qui n'est pas un film de studio.
OK, alors tu veux que je te parle du cinéma indépendant par rapport au Conseil des Arts, par rapport à la SODEC, par rapport à Téléfilm Canada, par rapport aux Américains, par rapport à Peter Jackson ou par rapport à l'Afrique du Sud?
Je te parle du cinéma indépendant. Quand on parle de cinéma indépendant, on parle de cinéma indépendant américain. On parle d'un cinéma qui n'est pas un cinéma de studio. C'est-à-dire que tu as un investisseur privé qui, dans ce cas-là, était Peter Jackson.
Je pense pas que c'est Peter Jackson qui a donné 30 millions de sa poche. Je pense que Peter Jackson était le producteur et son studio qui doit être affilié à...
Ah, ils sont allés chercher les sous, mais je veux dire, c'est pas...
Mais ça a sûrement aidé qu'il soit... C'est pas un film de studio.
QED, je crois, qui est la compagnie...
Puis 30 millions pour un film de...
Le cinéma indépendant peut avoir à peu près 1000 significations différentes, peu importe dans quel pays tu es, dans quel... contextué par rapport à qui sont tes amis jusqu'à un certain point.
Bon, bref, faut qu'on devienne amis avec qui la liberté.
Le cinéma indépendant a le dos large et un petit peu trop large. Alors, si on parle d'Hollywood et qu'on parle de ce film-là, oui, c'est un film indépendant.
Moi, je le considère un film indépendant parce que c'est un film qui
de est... notre réalité à nous.
30 millions de dollars, c'est sympathique.
30 millions de dollars, on appelle plus ça un film indépendant.
Bon, moi, je pense que c'est peut-être un film intermédiaire. On pourrait-tu dire quand l'indépendant puis le studio, il y aurait un intermédiaire qui serait 30 millions de dollars? Parce que pour un film de sci-fi, 30 millions, c'est rien. De cette ampleur-là aussi. Ni pas qu'il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux.
Des gens de talent peuvent faire des miracles avec 30 millions de dollars, peuvent faire des films comme District 9 qui ont l'air de ce qu'ils ont l'air. Les meilleurs thrillers qu'on connaît aujourd'hui, là, on parle plus de science-fiction, là, genre toute l'époque des années 90-2000 avec Michael Douglas, c'était tous des films à 30 millions de dollars qui étaient peut-être même considérés dans les... à l'époque où les budgets commençaient à exploser à Hollywood comme peut-être des films indépendants parce qu'il y avait 30 millions au lieu de 100 millions quand on commençait à bosser les 100 millions de dollars. La perception de ce mot-là, tout ça.
Non, je suis d'accord avec toi que 30 millions de dollars, c'est beaucoup. Moi, le niveau
indépendant... C'est pas beaucoup en même temps.
Je ne le mettrais pas au niveau du budget, je le mettrais au niveau de l'esprit du film. Oui. Parce que pour moi, un film indépendant, c'est un film où est-ce que le créateur a carte blanche. Puis c'est un film qui est considéré comme sud-africain. C'est un film que l'Afrique est comme tatouée bord en bord dans ce film-là. Ouais. Les jokes avec les Nigériens, là, je suis sûre qu'on n'en comprend pas le quart. Là.
Il y a un super beau jargon, super typique.
C'est
génial. Quand tu écoutes Jean Détourne de Diane Word, pour ne pas les nommer, qui est un groupe qu'on aime beaucoup, qui allez voir taper ça sur YouTube, Die Ant Word.
On va vous mettre ça dans le...
Il y a du jargon africain complètement hallucinant et t'as tout ce même jargon-là dans le film, c'est jouissif de le voir. Il y a toute une culture incroyable en Afrique du Sud parce qu'il y a aussi beaucoup de blancs-becs, je pense qu'il y a eu beaucoup aussi de... Hollandais.
C'est eux, en fait, les Afrikaners, c'est des Hollandais.
Ouais. Bon, des Hollandais. Donc, il y a comme un mélange de cultures complètement hallucinant, puis il y a un jargon, une espèce de joual qui s'est créé, qui, moi, me fascine. Ils ont un parler qui est entre le français, qui est entre le... C'est comme un mélange de plein de langues.
Je pense
qu'il n'y
a pas de français, en fait.
Une petite bite de là, papa puis maman.
Il y a un accent,
À Toronto, j'ai vu un film.
Allemande aussi.
À Toronto, j'ai vu juste un film, puis c'est un film sud-africain. Puis c'était vraiment intéressant parce que c'est un film de gangster. Puis le réalisateur est venu, puis c'était une des questions. Il parle quelle langue, tu sais? Puis il expliquait qu'en fait, c'est une sorte de patois où est-ce que chacun parle sa langue, mais qu'il y a comme une sorte de mélange qui se crée, puis tout le monde se comprend.
C'est drôle.
C'était weird, là. C'était vraiment toutes sortes de langues. Puis
Afrique du Sud, Saguenay, même combat.
Un autre détail intéressant, ça a l'air que le Zoulou, c'est une langue dans laquelle il y a beaucoup de clics. Et donc, les extraterrestres,
ouais, c'est inspiré.
Ouais, c'est comme ça clique pour tout le temps.
Ouais, pour les sons des extraterrestres.
On a assez parlé de politique.
Comment t'as trouvé le jeu d'un comédien qui n'est pas un comédien professionnel?
Ouais, c'est ça, quand même.
C'est vrai.
Oui,
c'est ça. As-tu lu le gars là, qui fait le personnage principal? Là,
c'était son premier rôle.
Il a joué dans le court-métrage.
Oui, c'est le même personnage, c'est le même acteur.
C'est même pas le rôle principal, parce qu'il y a quand même un paquet de monde. Il a recruté pour faire le long-métrage, qui joue vraiment le rôle principal. Ce gars-là avait jamais joué avant. Et ne veut pas rejouer après, ne refera jamais de l'acting. C'est vraiment
c'est
ça qu'il a déclaré.
Oui. Il est bon. Il est excellent.
Moi, je savais pas du tout que c'était un acteur non professionnel. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a vraiment... Bon, il pourrait avoir plusieurs choses à parler au niveau du jeu dans ce film-là, mais t'as vraiment comme sa première phrase, c'est le petit nerd du bureau qui tape ses nerfs de tout le monde, puis qui est ben trop primé, qui a sa super belle femme qui a marié, ouais, tout va
comme,
bien.
C'est comme un peu le couple improbable.
Oui, hein. Je te demande ce qu'ils
comme
font ensemble.
Le plus qu'elle a fait l'aimer.
Oui, vraiment. Puis t'y regardes, puis c'est exactement le genre de collègue de bureau que tu veux pas travailler avec parce que
il va
c'est
taper
une
ses
tâche.
Mains.
Puis le sort tombe sur lui comme quoi qui.
C'est lui qui dirige l'opération.
C'est lui qui dirige l'opération, ça. Mais c'est arrangé parce que son boss se trouve être son
beau. Ouais, c'est
son...
ça. C'est pas le sort. C'est comme
son,
genre
c'est ça, son beau-père.
Ouais. Corruption là.
Et voilà. Et tu fais qu'il prend énormément son rôle au sérieux jusqu'à temps qu'il se fasse éclabousser où il y a un premier fail, il y a une première forme de violence qui peut s'exprimer. Et pendant toute la séquence où il avant qu'il quitte le District 9, qui sont peut-être disons le premier quart de la transformation qui est extrêmement rapide, parce que je pense que c'est dans les 24 heures, comme dans le film disent.
72 heures, on va se faire apparaître 48, 24, 48, 72 heures.
Exactement, que la transformation est la plus rapide, puis après, ça s'assemble tranquillement à l'intérieur des tissus de l'ADN pour venir à une transformation complète. Mais juste dans ce bout-là, il passe d'un état extrêmement frais comme une fleur à un état de complètement décharné en très 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 peu de temps, et c'est très drôle parce que moi ça m'a marqué en le voyant, je me fais oh mon Dieu, mais il va vraiment vraiment pas bien, mais ça se passe en l'espace de 15 minutes puis tu le vois pas.
La scène de l'anniversaire quand il rentre puis c'est ça aussi. Surprise party, c'est tellement drôle.
Ouais, ça c'est mais c'est génial parce qu'ils se sont servis d'un cliché finalement, mais qui devient pathétique, t'es horrible.
Mais juste pour...
Le gars, il est malade. Là,
pour montrer comment est-ce que tu décris, c'est au niveau du jeu, c'est super bon parce que c'est comme genre, il arrive dans son anniversaire puis il fait ce malaise-là, le gars qui veut la jouer puis qui est pas bien. Puis c'est que la comédie, c'est pas facile de faire de la comédie comme ça. C'est pas facile, j'imagine.
Non, c'est quand même des scènes drôles, mais pas drôles.
La comédie, c'est vraiment tough à faire en général.
La comédie, c'est pire que le drame.
Puis c'est un personnage comique, là.
Oui, au début, oui. Il est vraiment... Vicus.
C'est un personnage comique. On est d'accord que c'est un personnage comique à la
Oui,
à la
puis en même temps, c'est super triste parce que
malgré lui, genre.
Nous, à son anniversaire, on a tellement d'empathie envers lui parce qu'on sait ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il a vécu
tragique.
Toute la journée. C'est vraiment tragique.
Ouais, c'est tragique.
Mais tout le monde est content. C'est son surprise. Il ne savait pas. Il ne va pas bien. Tout le monde est tellement superficiel. Donc on est là, c'est le fun, on sourit, c'est ta fête. Personne ne s'occupe vraiment de quoi il a l'air, de comment il a l'air de sentir. Il veut juste aller aux toilettes. Personne ne laisse y aller. C'est super déchirant pour le spectateur.
Cette scène-là, puis cet humour-là que tu es en train d'écrire, c'est-à-dire les gens superficiels, hyper clichés, ça me fait penser à Robocop. Ça me fait penser à ce style-là.
Ouais.
Oui.
Robocop.
Ben oui, le style de d'ambiance, tu sais. Il y a quelque chose, j'ai une parenthèse, je trouve, avec Robocop. Ben oui, Robocop, t'avais des fausses publicités, t'avais le côté la méchante compagnie. Viens pas me dire qu'il n'y a pas de.
Oui, oui, il y a plein de liens.
Il y a plein de liens.
Oh, le côté fauné.
Oui, oui, le côté, c'est quoi, j'ai un blanc, là, le réalisateur de Robocop. Là,
Paul Verhoeven.
Oui, bon. Mais il me semble qu'il y a. Ben d'ailleurs, c'est pas un Hollandais, lui aussi.
C'est un Hollandais, oui. Ah,
ben, par hasard.
Il avait fait la même chose un peu avec Starship Troopers, qui est là un vrai film de science-fiction.
Ouais, ouais, ouais.
Ben, comme Robocop, c'est pas un vrai film de science-fiction. Genre.
Oui, là.
Par hasard.
Puis Total Recall aussi, un autre film de science-fiction.
Mais, je pensais à Robocop, je suis sûre qu'on peut aussi penser à Star Trek, mais je pensais à cette espèce de décalage. Comme justement, tout le personnage, il est comme tellement superficiel, méchant. Ils sont très unidimensionnels, si tu veux.
Ouais.
Mais d'une façon qu'on croit que la vraie vie est comme ça d'une certaine façon. Pas unidimensionnelle comme quand on regarde un film genre avec Rambo ou, qui sont unidimensionnels d'une façon héroïque. C'est genre les méchants, les bons. Les méchants, ils sont comme méchants, mais ils sont stupides puis ils sont comme genre, on se reconnaît dans les méchants. Tu vois ce que je veux dire?
Mais en fait, on peut faire un parallèle étrange où les extraterrestres qui sont... personne les respecte, personne les écoute. Tout le monde veut leur faire cracher de l'information, mais en les battant, en les menaçant, en ne tenant jamais en compte leur humanité et le respect qu'ils devraient leur donner.
C'est pas des humains, ils le disent.
Exactement.
Extraterrestrialité.
Puis alors qu'entre entre les humains... comme on le voit, il y a quelque chose d'extrêmement superficiel, fauné, puis c'est quand le gars commence à se transformer qu'il commence exactement à subir exactement la même chose qu'on fait subir aux extraterrestres, mais pas nécessairement parce qu'il en est un, mais simplement parce qu'il est juste devenu différent. Mais ça, c'est peut-être social vers où je m'en vais.
Bon, là, tu t'en vas vers le côté du film qui m'avait frustré beaucoup la première fois, qui m'a peut-être frustré moins la deuxième fois, mais c'est encore la grosse incompréhension que j'ai du film. OK.
C'est comme si les extraterrestres étaient vraiment les vrais gens le plus proche d'une honnêteté, alors que les humains sont
mais
supposés
les... Mais je pense pas. Les extraterrestres, ils sont comme super agressifs. À un moment donné, il arrive le militaire, ouais, il s'énerve, humains... il explose un bras.
Mais attends, tout le monde est agressif dans
non,
ce film-là.
Non, mais tout le monde est niaiseux
personne
dans ce film-là.
Personne dans ce film-là, je veux dire... Ils parlent pas la même langue. Tu te rends compte que ça fait 28 ans qu'ils sont là quand le film commence.
Tu as utilisé le mot « personne », tu devrais dire « prawns ».
OK, entre les prawns puis les personnes, puis les humains, ils se comprennent. On comprend vite dans le film qu'ils sont capables de communiquer même s'ils parlent pas la même langue.
Oui, mais ils se respectent
et
pas.
Et on a l'impression qu'ils se sont jamais vraiment parlé. Et quand on rencontre Christopher, le personnage principal extraterrestre, qui lui a l'air d'avoir une solution, qui peut-être même... Bon, il y a plein de choses qui sont établies dans le film dont il y a peut-être différentes classes sociales d'extraterrestres, puis peut-être qu'est-ce qui reste là comme classe sociale, etc.
Mais pourquoi il est le seul à être intelligent sur toute la bande?
Parce que c'est un ingénieur.
Oui, mais on a une grosse question par rapport à ça.
Mais c'est le seul de toute l'ensemble, la communauté extraterrestre du gros vaisseau qui est intelligent.
Mais c'est fucking frustrant parce que lui, il y a une fucking solution qui ferait... OK, qu'est-ce que les humains veulent? Se débarrasser des extraterrestres. Soit les tasser à 200 km de Johannesburg dans un nouveau camp. Donc, ils veulent, genre, s'en débarrasser.
Qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent pour partir? Ils explosent le vaisseau qui décolle.
C'est ça. Ils ont une solution. Christopher a une solution. Il l'a pas dit à personne. Ça fait 20 ans qu'il ramasse du fucking petit liquide. Qu'on sait pas c'est quoi le fucking petit liquide qui est genre le fioul, l'extraterrestre, ouais, machin, super organique.
Ça marche,
biotechnologie.
À la limite, là, c'est une
oui,
proposition.
Oui,
là.
Oui, 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 ça marche. Mais il l'a pas dit à personne. Il a pas essayé d'en parler à personne pour dire hey, guys, on peut arrêter de se battre, j'ai une solution pour vous autres.
Excuse-moi, je vais t'amener un détail important.
On pourrait ramasser notre fucking petit liquide de technologie extraterrestre, puis on pourrait colisser notre cap, tout le monde serait
Non,
pourrait être fucking, genre, on résout le film avant que le film commence. Il aurait pu en parler, il y a.
C'est parce que,
ans, là,
Olivier, c'est parce que tu manques un détail vraiment important.
C'est quoi?
C'est que, en fait...
Aide-moi, s'il te plaît.
Là, on rentre dans la sociopolitique de la chose, mais c'est le scénario. Hein?
Guillaume,
on parle du scénario.
Guillaume, bouge tes oreilles.
On parle du scénario, Guillaume. On parle de la structure du scénario. Ce qui est important là-dedans, okay, c'est que d'un côté, tu as effectivement les êtres humains qui sont tannés, ils voudraient s'en débarrasser. C'est le cliché, c'est pas le cliché, c'est la satire des réfugiés qui viennent, qui coûtent de l'argent et tout, OK? Mais la vraie réalité, OK, pourquoi ils ont pas exterminé? Ils auraient pu, là, genre, mettre une bombe nucléaire puis toutes les tuer puis dire c'est des coquerelles puis ils sont dangereux. T'sais, on le voit, ils pulvérisent un bras à un moment donné dès le départ. T'sais, ils sont violents, ils sont épeurants, il y a une incompréhension. C'est qu'il y a les armes des extraterrestres. Ils sont intéressés par les armes. Attends un petit peu. Il y a un intérêt de la compagnie, OK? Donc, puis il est pas stupide, Christopher. Il est pas stupide, Christopher. Il sait que sa bébelle est super puissante puis qu'ils vont être intéressés. Il faut qu'il la garde cachée. Il faut qu'il sauve avec son vaisseau.
Mais pourquoi il n'en a pas parlé aux autres extraterrestres de sa communauté?
Moi, c'est assez évident. Il ne pensait pas que c'était aussi pire quand il rentre dans le centre puis qu'il voit qu'il est
tort. Mais ça leur a pris 20 ans pour se rendre compte qu'il était trop naze.
Mais il a l'air de même avoir aucune cohésion à l'intérieur même de la communauté extraterrestre.
Il vient de faire sa bombe nucléaire. Il a pris 20 ans à la faire. Une fois qu'il est fait, il la perd tout de suite.
C'est pas une bombe nucléaire.
Non, c'est une métaphore. C'est pas une bombe nucléaire, mais c'est son arme maîtresse. C'est son arme
maîtresse. C'est pas une arme. Ce qu'il veut, lui, non, c'est un chemin de sortie, c'est qu'il veut sauver sa race.
C'est
pas une arme qu'a créé Christopher.
Je le sais. Ce que je veux dire, c'est que c'est sa carte maîtresse de son jeu.
Ça a pris 20 ans. Il a pas jamais jasé avec personne.
Technologiquement, ça prenait 20 ans à faire. Puis il fallait pas qu'il le dise.
Pas technologiquement, ben oui. C'est ramasser son fucking liquide.
Non, ça y a pris 20 ans à trouver son liquide.
Trouver son liquide, mais il y avait un procédé scientifique pour le
oui, proposer. Oui, mais c'était tout prêt parce que quand il a trouvé son liquide, il l'a mis dans sa machine puis ça fonctionnait.
Tu sais que t'as de l'or.
Arrangé avec le gars des vues, du moment qu'il a eu assez de coups dans son liquide, 32 secondes après la SWAT de la compagnie à descendre chez eux pour voler son fucking tube de liquide.
Ça, je te le donne. Il y a deux moments du film.
Ça, je te le donne. Ça, c'est cheap un peu.
Non, ça, je te le donne. Ça, t'as raison.
Secondes après. 32, ça, je les ai comptés.
Exactement. Ça. Okay. Ça, c'est un des gros...
Non, puis la chance que Vicus, après, débarque chez lui.
Chez lui, c'est
alors
ça.
Alors qu'il est dans un bidonville de 2 millions d'extraterrestres.
Face avec son liquide. Au moment où il est en train de le faire, ouais. Mais
c'est
d'accord.
Sûr que là,
on est
genre,
d'accord,
okay.
Ça, c'est des faiblesses.
Le cinéma est construit sur plein de coïncidences.
Il y a une pièce dans des films d'action.
District 9 qui peuvent les aider. Alors qu'ils ont un vaisseau gros comme Johannesburg.
À ce moment-là,
ils sont comme 2 millions.
Et donc, ça m'amène, votre conversation, ça m'amène à la science-fiction de la chose, OK? On parlait de l'élément science-fiction, qui est... Il y a Herbert, le critique du Time...
Le vin est beau
est mort,
et ça se sent.
Oui, il est mort il n'y a pas longtemps. Celui qui est mort il n'y a pas longtemps. Une critique célèbre a dit de District 9 que c'est du space opera. Puis quand on dit que quelque chose, c'est du space opera, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas de la science-fiction pratiquement intéressante, parce que space opera, c'est comme de la fantasy, là, tu sais. C'est que tout est permis, OK?
Oui, mais oui,
puis,
un peu de ça.
Là, puis effectivement, là-dedans, en fait, l'intérêt du film, pourquoi tout le monde tripe sur le film, c'est la satire politique dont on n'a pas le droit de parler à cause de Guillaume. Mais d'un point de vue... d'un point de vue science-fiction, c'est moyennement intéressant. Parce que bon, d'abord, tu as une chose qui est... Dans la science-fiction, une proposition intéressante qui est très peu traitée. Moi, j'avais beaucoup aimé 2001 pour ça. C'est quoi les extraterrestres? 2001 crée des extraterrestres qui sont complètement pas humanoïdes, tu sais. Déjà au départ, le monolithe, c'est quoi ces espèces-là
ça,
et tout.
Ils sont rendus au niveau 5. On est loin du corps physique.
Etc. Puis c'est que une des caractéristiques de l'être humain, OK, c'est qu'on est les seuls sapiens sur Terre. On est les seuls à être dotés d'une capacité cognitive avec qui tu peux avoir une conversation.
On le sait pas encore.
Ben, à peu près. On est pas mal sûr. Mettons qu'à toute fin pratique, on est les derniers. Il y en avait d'autres. Il y avait les Néandertals qui ont disparu. Tu peux imaginer toute l'histoire. On les a tués ou ils sont morts d'une maladie ou ils sont morts d'une comète. T'en avais une autre espèce.
C'est l'apartheid.
En fait, même il y aurait une autre espèce d'humanoïde qui était pas de notre lignée, qui aurait même disparu un peu plus tard, qui vit dans une île. Ben, une histoire intéressante. D'ailleurs, on devrait faire un film là-dessus.
Les Silent. Laissez les Silent.
Les Silent 2.
Mais l'idée, c'est qu'on est les seuls sapiens. Puis s'il arrive des extraterrestres, OK, c'est la question, c'est cette rencontre-là qu'on connaît pas. Puis dans le film, elle est plate, elle est ordinaire, ils sont trop humains.
C'est banal, en fait.
C'est banal. Le père avec son petit gars, puis d'ailleurs, en passant, je trouve ça, moi, mon côté
son
mélodrame japonais.
Qui
va
retourner à la maison, mais qui est né sur la Terre.
C'est extraordinairement mélodrame.
By the way. Moi, j'ai aimé ça, parce que le problème, je trouve, dans les films d'extraterrestres, quoique j'adore les films d'extraterrestres, dont Independence
Day. Mais ils sont toujours mauvais.
Mais c'est ça, c'est que c'est
qu'est-ce
tout le temps...
que vous avez tous avec Independence Day?
Oui, on va t'inviter pour
c'est un classique.
Okay, tu vas revenir
bon.
Pour Independence Day.
Ben oui.
Enfin.
Y a-tu juste toi, Marie-Louise, qui a pas aimé Independence Day?
Non, Nick a pas aimé. On est les deux, on l'a pas aimé.
Mais c'est l'idée.
On va faire ça dans un ring.
La rencontre du troisième type, qui
oui,
est
oui,
une autre
oui, oui,
section.
Ça, oui, ça,
là, lui, il a aimé ça.
Ça, oui, ça,
c'est
ça.
Tellement bon. Faire bander trois autour de la table.
C'est à peu près les deux seuls films où les extraterrestres sont montrés d'une manière positive. Bon, dans District 9...
Ben, District 9 sont montrés d'une façon ambivalente. Ouais. Mais
oui, mais ils sont pas là pour envahir la planète puis détruire les humains.
Il y a de l'espoir.
Exterminer l'ensemble de l'humanité puis conquérir la Terre. Okay. Ils sont juste là puis on sait pas pourquoi, mais ils sont là.
Mais dans tous les films les extraterrestres sont toujours humanoïdes. Ils sont anthropomorphisés, tu sais.
Mais c'est normal, c'est nous qui créons ces histoires-là.
C'est normal. Si t'acceptes que la science-fiction, t'as du bruit dans l'espace, par exemple.
D'après les scientifiques, il y a peu de chances que ça soit ça dans les faits.
Ben, oui, c'est clair. Sauf que c'est des humains qui écrivent des films sur des extraterrestres.
T'as plus de chances de jaser avec un monolithe de 2001 que de jaser avec un
prompt. En fait, t'as à peu près aucune chance de jaser avec un extraterrestre, on peut rentrer là-dedans.
Si t'es capable de jaser avec un monolithe, tu me le diras parce que...
Nonobstant, dans Star Trek, t'as plein d'humanoïdes, OK? Puis ils ont créé un épisode dans Next Generation où ils se rendent compte qu'ils partagent tous les mêmes gènes. C'est juste pour expliquer ça parce que les férus de...
Ça,
de art science fiction comme moi, ils étaient comme genre, ça pas comme le Saguenay.
C'est comme le Saguenay.
C'est très l'épisode bon. Saguenayen de Star Trek.
Et là là.
Mais
oh, c'est bon.
Okay, bonjour, Jean-Lala Tremblay. J'espère que ta prière est bonne.
Un autre
commentaire politico-social.
Un autre truc, c'est qu'on sait
bonjour,
rien.
Bonjour, Guillaume.
Au-delà du style d'extraterrestres, que c'est qu'ils sont quand même intéressants parce que c'est vrai que c'est pas des extraterrestres clichés. On sait rien de leur quête. On sait rien de leur vie. On sait, ils sont. Tu sais, c'est comme.
Et tant mieux d'ailleurs.
Ça,
c'est bien de pas
ça
trop en savoir.
Dire,
on n'est pas dans un conflit de domination de la planète, on est dans un conflit de
cohabitation,
de valeurs, de communication. Puis c'est. Et la première fois, je crois que dans un film d'extraterrestre, c'est traité de cette manière-là.
Oui, c'est vrai.
Puis c'est ce qui fait tellement la force du film.
Ouais. Mais t'as pas vu Enemy? Ça vous redit rien, non. Ça, ce film-là?
Mais savez-vous qu'est-ce qui
expliquerait... Est-ce que tu fais allusion à Enemy Mine, le truc avec Dennis Quaid?
C'est
un extraterrestre et un humain qui se retrouve sur une planète.
Ouais. D'après vous, qu'est-ce qui expliquerait le mieux l'idée qu'on vient de parler, sauf un extrait du film?
Oh, que t'es fort! OK, alors, un extrait du film... Ça tombe à point.
What is he saying about the fuel? He says, are you trying to start this? Are you little fuckers trying to start this and get away, eh? Yeah, you sneaky fucking broads, eh? What did you say about the fixing? What do you mean you could fix me? No, listen. Are you saying that you could turn this brawn hand into a human hand? I mean, you can make me human again. That's fantastic! Oh, you guys are brilliant, eh? I always thought the prawns were intelligent, you know? Let's do it. Right, okay. All right, I'll tell you what. Why don't we go... Let's get some more. Let's go collect some up. Fuck, man! Fuck! Fuck! The only one is the one I confiscated. It's four stories underground.
OK, alors pendant que tout le monde prenait une pause en train de parler de Die Hard, que tout le monde a vu sauf moi...
Honte à toi.
Ouais, honte à moi, c'est vraiment...
C'est mal.
C'est vraiment un truc que j'avais pas vu Jazz avant d'avoir comme 25 ans, tu sais.
Putain, mais t'es qui? T'es sans doute, toi.
C'est bizarre.
Non, mais attends, moi, j'ai vu aucun Jazz parce que ça me faisait trop peur quand j'étais jeune.
Ben, c'était ça le problème, c'est que moi, j'étais super impressionnable quand j'étais petite, puis mon père, il voulait pas que je voie ça.
C'est vrai, vous êtes des filles.
Oh,
le commentaire
sexiste.
C'était pour rire, bien sûr.
Bon. Mais moi, pendant que vous parliez de tout ça, j'étais en train de lire un article du New Scientist sur la science and casualty of human-alien conflict. Ils ont bien aimé la manière dont on représentait les extraterrestres qui ne ressemblaient pas à des humains parce qu'ils étaient quirky. Bon, mais un des éléments qu'ils mentionnent, qui est comme très pauvre du film, puis d'ailleurs, je l'avoue, c'est l'idée que le gars, il va avoir comme une extension extraterrestre, c'est-à-dire que l'ADN humain puis l'ADN... extraterrestres vont se mélanger. Et une autre affaire que je remarquais, c'est la manière dont les extraterrestres mangent de la bouffe humaine. Je me suis posé la question, j'ai pas de réponse. Je serais super heureuse s'il y en a un biologiste ou quelqu'un qui,
ouais, comme, c'est un peu comme
qui nous écoute puis qui soit capable de déterminer est-ce qu'un être extraterrestre qui a une autre ADN, si même c'est de l'ADN, ben c'est ça la question. C'est ça qui est de le fun quand tu commences à te poser des questions. Ça reste la science-fiction, donc pose-nous une question scientifique. Est-ce que c'est vraiment un être intelligent va être composé d'acides aminés qui sont à la base de l'ADN?
Et, la plupart des scientifiques disent probablement que non.
Ben, je sais pas nécessairement, parce que ça se peut que ça soit une des configurations qui fonctionne dans la physique. Donc, ça se peut que si, dans un autre univers, ça se développe, sérieusement, je dirais pas non. Mon réflexe, c'est de dire que probablement pas, parce que l'évolution, c'est quelque chose... C'est une loi... probablement de la physique, qui fait en sorte qu'il y a une complexité qui tend à survivre dans un environnement quelconque. Bon, on n'expliquera pas Darwin là maintenant. Si vous voulez, écrivez-moi une email, ça me fera plaisir d'en parler avec vous.
Guillaume, mais sans parler à
j'adore parler la théorie. J'adore votre conversation.
Silicone-based.
Silicone-based. C'est tout naturel, ça.
La plupart des scientifiques s'entendent pour dire que nous, on est basé à base de carbone,
oui.
Les êtres humains, mais que s'il y a d'autres formes de vie ailleurs...
Il n'y a rien qui prouve que ce soit la même chose.
Que les chances que ce soit basé à base de carbone sont de, à peu aussi près grandes que ce soit basé à base de toutes sortes d'autres choses, dont le silicone ou...
OK, pour commencer, ce que tu viens de dire est complètement faux. Parce que je peux te dire, avoir écouté récemment un scientifique, le fait que ce soit basé à base de carbone, c'est fort probable que s'il y a d'autres formes d'humains qui soient basées à base de carbone, sont très, très élevées, en fait. C'est pas vrai du
ça
tout.
Ça veut pas dire qu'ils vont manger de la bouffe à chat.
Ben exactement. C'est là la question. C'est sûr qu'ils vont être basés à base de carbone à 99% à cause des propriétés du carbone. C'est un élément très spécial dans le tableau périodique.
Ah, le carbone. Qui a carbone.
Qui a comme une sorte de facilité de créer ces espèces. Faut que t'as pas fait de chimie organique. Ça va faire de la chimie organique, tu comprends
ce
que
je veux dire. Faire de la chimie organique.
C'est extraordinaire. C'est tout est lié au carbone. Non, sérieusement, ça donne. Excuse-moi, là, je suis un peu chienne, mais j'ai vraiment écouté un podcast il y a pas longtemps avec un scientifique qui disait ça, que le carbone est vraiment un élément spécial, puis qu'il y a une espèce de mythe dans la science-fiction, justement, à cause des Star Trek des années 60, que tu aurais des extraterrestres à silicone. Pourquoi silicone, d'ailleurs? C'est parce que c'est l'élément plus lourd en dessous du carbone. Donc, il y a des propriétés similaires au carbone. C'est pour ça pourquoi...
Marie-Louise, toi puis moi, puis une bouteille de carbone, on peut faire
des miracles. mais donc, je me pose la question... Est-ce que des extraterrestres, mettons, qui sont à base de carbone, est-ce qu'ils sont vraiment des acides aminés? Est-ce qu'ils sont capables de digérer la bouffe à chat en canne?
Attends, j'ai des petits problèmes avec ton micro. Il est décroché un petit peu.
Une bouteille de carbone, on pourrait dire que c'est une bouteille de mousseux ou de champagne aussi, parce que qu'est-ce qui fait les bulles dans une bouteille?
Ah là, t'es trop loin. Là. On parle pas du même carbone.
C'est aux deux, donc. On s'écarte un petit peu les sujets.
C'est un méchant party, là. Tant qu'il y a un hot tub, là, on est en business. Là.
Mais n'étant pas biologiste, je serais vraiment curieuse d'avoir l'avis de quelqu'un à savoir est-ce qu'une race extraterrestre pourrait... Mais c'est comme l'idée que des on va explorer notre planète, est-ce qu'on va attraper des maladies? La réponse est probablement pas, parce que notre génétique est tellement différente de la planète X qu'il y a plein d'arbres. Mais l'autre question qui est intéressante, est-ce qu'on peut manger les herbes? Est-ce que notre estomac va être capable de digérer? Tu sais, tu peux pas manger du bois.
Mais en même temps, si c'est la seule chose que tu peux manger, à la longue, ça fait 20 ans qu'ils sont là, peut-être que leur corps s'est habitué.
Non.
Je sais que dans le principe... Je sais que dans le principe de l'évolution, qui prend des plusieurs années, voire sûrement des milliers d'années à s'adapter, ou plus peut-être des décennies.
On va avoir une bonne conversation après sur la théorie de l'évolution, parce que là, on va emmerder nos auditeurs.
Il y a des exemples de ça sur la Terre. Tu t'en vas au Nunavut, là, puis toute la bouffe que t'as, c'est genre de la baleine crue, là. Tu vas être malade pendant genre probablement un mois solide, comme si tu vas au Mexique puis tu bois de l'eau, là. Tu vas être sur la chiasse puis ça va sortir par tous les trous.
Okay, mais tu vas peut-être en mourir parce que ton corps n'est pas capable de s'adapter.
Tu vas développer des anticorps. Mais au début, c'est sûr que tu ne seras pas du tout adapté.
Ouais, mais on ne parle pas la même chose.
Et ça, ils n'en ont pas parlé dans le film, mais ils ont sous-entendu que peut-être...
OK, on parle pas du tout de la même chose pour commencer, parce que la baleine, ça reste un mammifère qui est fait de cellules... c'est de la chair, là, c'est fait de cellules qu'on peut digérer, c'est de la viande, tu sais.
Ouais. Je peux vous emmener sur une théorie.
Ce qui est pas le cas, parce que... Bon, on va arrêter ça bientôt. Les auditeurs qui peuvent avoir un commentaire là-dessus,
qui veulent discuter.
Non, mais
j'ai une théorie, moi, sur la bouffe à chat.
Vas-y,
on va pas sur la bouffe à chat, mais c'est ta capacité de digérer. Tu peux-tu manger du bois? Non. Tu veux pas manger du bois parce que t'es pas capable de digérer du cellulose.
Oui, mais à part dans Lords of the Ring, le bois est pas vivant, là.
Mais en fait, ce qu'on peut noter dans District 9, c'est que, justement, cet humain-là qui se transforme en extraterrestre est un humain, a la capacité de digérer la bouffe à chat et il en mange, il en a de besoin. Puis à un moment donné, il se rend compte qu'il bouffe la bouffe à chat, fait qu'il vomit. Et là où je m'en vais avec ça, c'est...
Ça va quelque part, j'espère.
Oui, c'est que, oui, il y a des extraterrestres qui sont arrivés là. Ils ont été mis dans un ghetto. Mais il y en a énormément d'extraterrestres. Est-ce qu'ils mangent tout de la bouffe à chat? Donc, s'il y en a un qui s'est fait transformer, qui a la capacité de la digérer, qui est à la base d'un humain, est-ce qu'on pourrait dire que peut-être le District 9 est quand même rempli peut-être d'expériences humaines transformées en extraterrestres capables de digérer la bouffe à chat?
Je pense pas que le film
t'es-tu content, Guillaume?
Ça,
on parle plus de politique, hein? On
et mélangé à des extraterrestres déjà présents qui mangent comme des itinérants, peut-être n'importe quoi du dépotoir.
Attends, ce que le film nous présente,
c'est une théorie, hein? C'est
ce
pas du tout
présente,
une réalité.
C'est que le personnage principal,
hypothèse.
Un genre d'événement freak qui arrive pour la première fois. Mais quand ils ont vidé le vaisseau après l'avoir ouvert, c'est comme s'il y avait vraiment toute la population qui est dans les camps de concentration, était dans le vaisseau déjà à la base. Il y avait un paquet de monde.
Oui, il l'a dit, il était 1,8 million.
Ils sont 2,5 à la fin. Qui augmente, là.
C'est ça, ils sont 2,5 millions à la fin, quelque chose du genre 2,9.
Fait que je suis pas sûr qu'il y a tant d'humains que ça là-dedans.
C'est une théorie, je le rappelle, hein.
Non, mais
il y en a peut-être eu
un ou deux.
L'hypothèse.
Mais est-ce que c'est ça qui a pu influencer toute une race à être capable de bouffer de la bouffe humaine?
Oui, mais si t'es pogné en quelque part, non, mais là, que c'est la seule chose que t'as à manger.
Mais c'est même pas ça la question.
Même si tu le digères pas, tu vas manger pareil.
Mettons que t'es sur une île déserte, OK? Puis qu'il y a juste des roches. Tu vas te survivre.
C'est juste un ballon de volleyball.
Mais qu'est-ce qui dit que les
roches. Je te pose la réponse à ma question.
Oui, mais qu'est-ce qui dit que les roches pour notre organisme est la même chose que une
C'est la question que je pose. Moi, j'ai posé une question à des biologistes. J'ai pas donné la réponse. Mais mon hypothèse ou ma question, OK, parce que c'est même pas une hypothèse que je pose, la question est la suivante. C'est est-ce qu'un extraterrestre qui est pas du tout. Écoute, il vient d'une autre planète, OK, ou est-ce que son environnement est complètement différent? Il débarque sur la Terre. Souvent, quand tu vas voir des Star Trek, ils amènent leur propre bouffe, là. Mm. Ils commencent pas à manger les bébelles qu'il y a là. On va donner ça à Star Trek. C'est très rare que tu vas manger la bouffe des extraterrestres.
Non, c'est un jeu qu'ils bouffent pas puis ils vont pas aux toilettes, là.
Non, c'est ça. Ils sont purs. ils baissent pas beaucoup non plus.
Puis ils rentrent pas sûrement.
Mais quand même, il y a quelques scènes. Puis. Reste que l'idée, c'est ça. La question, c'est la suivante. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant avec les science-fiction, c'est que typiquement, les gens qui font des science-fiction, qu'est-ce qu'ils aiment de la science-fiction?
C'est
ils aiment le côté peut-être un peu magique. Ils prennent la science comme étant une possibilité ou la proposition scientifique comme étant une possibilité de créer quelque chose de fantastique. Oui, c'est pour ça que quand Herbert, l'auteur de qui est mort, c'est ça, c'est Herbert.
Ah ben Leonard. Herbert Leonard.
Le gars qui était dans
Frank Herbert, tu dis?
Ouais, ben, en tout cas le grand critique.
L'auteur de Dune.
Non, le grand critique.
Roger Ebert.
Ebert. Il dit que District 9 c'est du space opera, c'est ça qu'il veut dire. Il dit que c'est pas du tout du hard science fiction. C'est-à-dire que c'est une science-fiction qui est basée sur tout, on peut y arriver, la fameuse métaphore politique qu'on n'a pas parlé à date, l'idée, en fait, de Blomkamp, c'est de raconter son enfance de l'apartheid en servant des extraterrestres. C'est purement une métaphore qui nous met mal à l'aise. Et qui t'a mis mal à l'aise? Parce que, en fait, ce que Olivier exprimait tantôt, c'est comme genre, j'aime pas ça parce que c'est de même que ça se passe, tu sais. J'aime pas ça parce que les nazis, c'était ça, l'apartheid, c'était ça, le Ku Klux Klan, c'est ça. Puis ça fait partie de l'être humain, ça, puis il le représente extrêmement bien, je pense, dans ce film-là.
Oui, exactement.
C'est un traité sur la xénophobie.
Oui.
Ben, je suis peut-être un peu enfantine, mais moi, dans la vie, genre, quand je vois quelque chose qui me parle, je m'accroche à ça, puis j'arrête d'analyser le reste parce que je suis juste comme, oh, j'aime ça, c'est beau. Puis, personnellement... C'est ça, voilà.
C'est pas mon podcast.
Mais personnellement, quand j'ai écouté District 9, puis que moi, ce film-là, oui, il y a l'aspect social-politique qui est présent, mais ce qui m'a tellement parlé, c'est cette espèce de drame de ce gars-là qui se transforme, puis il sait pas quoi faire avec sa réalité, puis tout s'écroule. Il essaye de se trouver des solutions, c'est difficile. Il est en conflit avec plein de choses entre ses valeurs humaines, ce qu'il est en train de devenir, ce qu'il veut faire, ses impulsions, sa rage, son incompréhension, le fait qu'il est tellement tourné sur son nombril parce qu'il veut juste retrouver son bras, puis il fait des gestes complètement stupides.
Oui. Genre voler l'avion extraterrestre.
Oui, ou genre... péter le crâne de Christopher juste parce qu'il est pas content parce que ça prend 3 ans d'année humaine pour son bras. Rapport, alors que, il aurait pu juste se calmer, respirer.
Christopher puis partir aurait pu avec aussi Christopher respecter aussi. Son deal avec aussi.
Ouais, mais Christopher, genre... il est horrifié, là, il vient de voir le camp de Nazi.
C'est
là.
Ça, il a jamais vu ça, lui, ouais, avant, là. C'est normal. Overreact,
ben raide.
Non,
dans la quatrième
c'est le personnage principal.
Elle voit toutes les expériences qu'il y a eu avant elle. C'est du ramassé de...
Non,
de,
c'est
de
le personnage principal qui overreact. Je suis désolée.
Non. Parce qu'il est pas comme toi, il y a du cœur.
Ça fait 28 ans que les extraterrestres sont là, puis il connaît pas la nature humaine encore. C'est le plus intelligent de sa race.
Non, mais c'est typique.
Tu veux pas s'en douter.
Mais oui, mais il est jamais sorti du district.
Hey, Olivier, c'est typique. Les camps de concentration nazis, ça a duré quand même 5 ans. Deuxième guerre mondiale, ils les envoyaient aux abattoirs, puis ils le savaient même pas.
Puis il y a plein de gens de la population allemande et qui étaient pas dans ces camps. Ce qui était dans le camp ne sortait pas du camp. Puis il y a plein de gens de la population internationale et même à l'interne de l'Allemagne qui ne savaient pas ce que ça passait tant que les camps n'ont pas été éventrés par les armées américaines.
En 1943, je veux bien, mais en 2009...
Moi, mais là, c'est fucking, c'est un extraterrestre.
C'est la même fucking réalité.
Tu t'appelles Christopher, que t'es le plus intelligent de ta race à un moment donné. Je allume un peu ta barnaque.
Time out, là, je veux dire, les Khmer Rouges, c'était dans les années 60-70, c'est la même hostie d'affaires. Le Rwanda, c'était quoi, là? Tu sais, c'était les génocides, les trucs bizarres, c'est des contextes politiques. Puis là, ce qui se passe, c'est un contexte politique. Puis ça, c'est vraiment bien réalisé. C'est quand même touchant, le petit côté... ben, je sais pas, tu sais, genre comme... T'sais, ça a été tourné dans un vrai ghetto, en plus. Dans
on
un
parle
vrai...
encore de politique.
Non,
mais,
non, là, c'est
que...
Non, on avait dit qu'à la fin, on en parlerait.
Non,
là.
Dites-moi,
à un moment donné, Guillaume ferme le podcast, c'est fini. Là, on parle de politique maintenant.
Mais tu sais, ne serait-ce que Guantanamo, dites-moi si j'ai tort, ça a pris énormément de temps avant qu'on sache ce qui se passait pour vrai là-bas.
Obama
c'est quand même
pas
moins
plus
pire.
Réglé
ça. Oui, c'est moins. Non, c'est clair que c'est moins pire.
C'est pas de sa faute, c'est à cause des républicains
aussi...
à la Chambre.
Non, mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des trucs.
Il y a des horreurs qui se font qu'on ne sait pas, même
mais
si on
c'est vrai
vit
que depuis Internet,
dans une réalité.
C'est moins vrai.
Parce que là, tu parles d'une race extraterrestre qui sont supposées être vraiment, genre, quoi, plusieurs centaines d'années, voire un millier d'années plus avancées que la race humaine.
Ouais, déjà, pour arriver jusque-là, c'est qu'ils ont un certain degré d'avancement.
Et tout ce qui reste, c'est les esclaves ou en tout cas les working bees de la gang. Ouais. Mais il y en a un seul là-dedans qui est intelligent. Puis après 28 ans, il n'a pas réussi à communiquer son plan de match avec personne.
On
ça y prend un petit blanc-bec qui est en train de se transformer. Avant de cacher qu'il y a peut-être un allié là-dedans, ça ne tentait pas d'essayer de communiquer parce qu'ils se comprennent même s'ils ne parlent pas la même langue.
Oui, mais en même temps, on le sait pas. On le sait pas. On ne sait rien des extraterrestres. Le film ne dit
rien. Il y a quelque chose un petit peu.
Peut-être que Christopher, peut-être Christopher, c'était comme genre un janitor, un concierge sur le vaisseau.
C'est intelligent tout d'un coup.
Mais il est peut-être pas, justement. Match, il est peut-être pas. Peut-être que les plus intelligents sont morts.
Il a 300 ordinateurs restés dans son chac ensemble.
Non, mais
c'est quand même fucking bright. Non,
attends, il avait peut-être peur que ses autres.
Moi, je le trouve cute. Là.
Mais non, son petit gars, il est cute.
Non, mais oublie pas que.
Son petit gars qui dit je veux retourner à la maison, mais il est né sur la Terre parce qu'il a fucking 8 ans, son kid, puis ça veut dire que.
Ben,
il a jamais vu sa planète. Maison.
Mais non, mais le District 9 est aussi assiégé par une équipe.
Tu vis dans un camp de réfugiés, là. T'es né dans un camp de réfugiés. Ta maison, c'est pas ton camp de réfugiés.
Mais tu le sais pas. Tu sais pas c'est quoi ta vraie maison.
Ben oui,
t'as
fait
une tes parents peuvent t'en parler. Ils peuvent t'apprendre ce que c'est.
T'aurais aimé ça, voir ça dans le film.
Ben, on le voit.
Non, son père, il a jamais fait miroiter à quel point sa planète...
Ben oui, t'es au banquin au bout du film. Où est-ce que là, il y a sa simulation, puis il y a une scène.
C'est pas ça.
Mais t'as trouvé la plaque de lune, ta cigarette.
Autour de la Terre, il y a une lune. Autour de la planète, combien de lunes.
Puis c'est plus clair, puis il y a plus de lumière.
Il fasse rêver le spectateur un peu plus que ça. Pour que j'en.
Mais moi, je crois pas. Moi, je pense pas. Depuis le début, il te donne des informations au compte-gouttes.
Tellement, laissons Nick parler parce qu'il a pas parlé du début du
sommeil. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil en ce moment.
Je fais
un peu l'arbitre.
Exprime-toi.
Non, mais j'entends. Dès le départ du film, on donne extrêmement peu d'informations par rapport aux extraterrestres. Et c'est tant mieux. T'sais. Moi, je trouve ça très, très bien qu'on n'en sache pas trop puis qu'on ne se rende pas dans les trucs, justement. Oh, ma belle planète de chez moi, mon monde, mon machin, mon truc. C'est plus t'en dis, plus ça devient, niaiseux.
Mélodramatique.
Ouais, je veux dire, là c'est bon, on a ce qu'il nous faut de tragédie avec l'histoire de Vicus, enfin à mon avis, c'est avec l'histoire de Vicus qui vit son drame familial parce qu'il est tellement amoureux de sa femme qu'il va plus jamais revoir, enfin, tu sais, et puis le fait qu'il
la finale du film avec la petite
machin.
Fleur et
oui,
tout, tu pleurais à mon
cul. Ouais, c'est trop cute.
Mais comment il a fait pour sortir de là, pour aller y porter en pleine ville?
C'est l'amour, hein, ce que ça fait.
Non, mais attends, mais dans tout le film, c'est comme si... Ils disent que, genre, les extraterrestres ont jamais pu sortir de leur District 9. Et pourtant, dans tout le début du film, ils te montrent des événements où les extraterrestres sont en dehors du District 9, en train de faire des conneries. Puis c'est ça qui a créé un petit peu le build-up qui a créé...
Tout le monde en a ras-le-bol.
Donc, on s'entend que... Ben, attends, c'est des clôtures à moitié à mâcher que... Ça marche.
Ouais.
Qui a pu sortir de là, genre un peu même incognito, c'est établi depuis le début. Là.
Non, puis ça, ouais.
Tu peux te sauver la nuit.
Ça tombe dans la réalité. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui se passe. Ça arrive, c'est genre un truc qui se passe. C'est complètement crédible.
Il paye quelqu'un, il paye un Nigérien pour aller porter la fleur, puis il le fait.
Oui.
Nigérien.
Ils sont extraordinaires. On en a presque pas parlé. Je les adore, moi, avec les trucs de sorcière.
Parce qu'il y a un paquet de Nigériens là-dedans qui sont dans le coup.
À un moment donné, ils mangent le truc extraterrestre.
Mais justement, vu qu'on parle du gars gang de Nigériens dans le District 9 qui, disons-le, les assiègent. Ils leur vendent la bouffe, leur commandent des armes. Ils les honnent vraiment dans leur propre district.
Voodoo,
mais peut-être que Christopher, il a jamais parlé de son vaisseau puis de ses patentes parce que juste à ses alliés extraterrestres, parce qu'il avait peut-être peur qu'ils les vendent au groupe de Nigériens qui les assiègent.
Pour de la bouffe de chat?
Exactement.
Ouais. Ouais, mais oui.
À la mort, c'est ce que je disais tantôt, mais t'en amènes un autre. Moi, je disais c'est à cause des humains, mais toi, c'est à cause des Nigériens.
OK, mais comment ça que c'est Christopher?
Parce qu'ils n'ont pas juste la menace humaine extérieure politique. Ils ont la menace intérieure qui dépend même de leur survie, de ce qu'ils vont manger, de comment c'est géré à l'intérieur du District 9. Ils sont assiégés partout. T'as peut-être pas envie de dire que t'as une super belle arme et que t'as découvert le produit pour faire vivre ton vaisseau.
Mais c'est pas un peu arrangé.
Quand tu peux te faire vendre par tes buddies qui attend juste d'avoir 1000 cannes de beau fachat.
Ça finit toujours par être arrangé par le goût des vies. Dans un film d'action.
C'est que le seul extraterrestre qui est un petit peu intelligent, capable de s'exprimer, alors que Christopher est vraiment très, très éloquent dans sa façon de s'exprimer, est celui qui, par hasard, du vaisseau en dessous de sa maison.
Non, ça c'est pas hasard, ça, je pense.
Mais s'il y en avait eu,
ça, c'est pas hasard.
Mettons que ça aurait été n'importe quelle autre cave qui aurait vendu le robot qu'il y a dans Robocop, là, l'espèce de machine qui marchait pas, ou dans Avatar, que tu peux mettre un humain dedans, ou dans Alien, ou machin.
Mais ça, je pense que c'est une question de sympathie cinématographique pour le personnage.
Mais c'est ça, c'est arrangé avec le gars des vues.
Oui, t'as un personnage intelligent c'est là que avec son allié. Puis, t'as toutes les autres qui sont niaiseux, stupides.
C'est une rencontre tellement improbable.
Oui, okay, mais si t'en avais eu 10 d'intelligents avec 10 de niaiseux d'extraterrestres,
j'aurais aimé ça pour
plus crédible.
10 intelligents pour 1,8 million de niaiseux. Mais là, il y en a rien qu'un.
Oui, mais c'était pour, même si c'était peut-être pas,
c'était pas
une
suite,
bonne idée, ça renforçait quand même le capital de sympathie.
Mais attends, je voudrais juste mettre un petit time-out. Ça reste un film fascinant parce qu'on en parle depuis tantôt, puis il y a plein de belles choses dedans, mais c'est certain qu'il y a des raccourcis.
Capable de nous entendre.
Il nous écoute depuis longtemps, je sens. Mais il y a comme une. Est-ce que j'allais dire, c'est la question. Bon, moi j'en ai encore.
Merci.
Là, vous commencez à sentir
la bouteille en plus. Oh là là.
Il y en a une autre.
Et en plus, il y en a une autre. Bon.
Pour moi, c'est une évidence, c'est qu'il y a un côté kafkaïen, là, la métamorphose, on est-tu d'accord?
Ouais.
Mm-hmm. Puis on n'en parle pas.
Je sais pas ce que tu veux dire.
Va lire Kafka.
Oh, puis il y a plein de throwbacks à d'autres films, on dirait, tu sais, ça s'appelle The Fly.
Je te dirais que c'est vraiment, tu sais, on parlait tantôt, tu parlais de l'univers, la réaction des gens. Si tu te bases sur Kafka comme référence, OK, mm-hmm. c'est un peu ça, c'est que les gens, ils ont une façon d'être bornée, unie, tu sais.
Unilatéral
qui est très Kafka. Quand tu lis Château ou Le procès, c'est comme genre insupportable. Ce côté-là, arrête, sors de ta ligne directrice. Puis je pense que c'est comme vraiment très, très kafkaïen District 9.
Bon, moi, je dis qu'on se voit un petit extrait, puis qu'après, on conclut.
Hello? Betty, is it you? Tanya? God, please let it be you.
Yes. Me.
Baby. I'm so happy you call me, baby.
Because just listen to me.
Okay.
I have something to say to you and it's not gonna be easy.
No, okay, look, listen, baby, before you say anything, your father is working against me, baby. He's lying to you. I did not have sex with one of these fucking creatures, man. I would never have any kind of pornographic activity with a fucking creature. But he doesn't.
They say that you become obsessed with him. I can't do this.
Baby, please don't give up on me, you know? Don't give up on me, baby. Because I can. I want to see you again, baby, and I'm gonna fix my arm and I'm gonna see you again and I'm gonna kiss you and I'm gonna hold you again. Baby?
Ce qui est intéressant quand même, c'est comme notre ami Vicus comme démarre le film comme quelqu'un d'assez... Enfin, tu sais, il est dans son truc, là, il est tout joyeux, tout machin, mais il est comme... Tu sais, il fait signer ses papiers, il en a juste un peu rien à foutre de ce que pensent les prawns et tout ça, et puis que...
Ben, il est un exécutant.
Oui, ouais, c'est ça, c'est un exécutant.
Un exécutant qui pense pas.
Qui a... est pas pire, qui connaît, il connaît son métier. Il est efficace, voilà. Il connaît les trucs, genre...
Marionnette haut de gamme.
Puis en fait, ouais, c'est au moment, en fait, c'est au moment où il, petit à petit, il est en train de perdre son humanité qu'en fait, il devient plus humain. C'est le petit soubresaut d'humanité au milieu de tous ces, comme tu disais avant, tous ces personnages kafkaïens qui ouais. sont c'est tellement droits dans leur truc.
Ça reste que District 9, n'en déplaise à Guillaume, est une métaphore. Puis est un film politique. Pas, c'est pas un film. C'est plus un film politique, c'est plus une satire politique qu'une science-fiction. Parce qu'au niveau de la science-fiction, ça amène à rien. C'est pas un Blade Runner, c'est pas un film qui nous. Mais c'est rare quand même au cinéma que. Tu sais, les bons films de science-fiction, on fait un podcast sur la science-fiction, là, mais les bons films de science-fiction sont quand même très rares. Ouais. Quand tu lis la littérature de science-fiction. Ouais. Quand tu lis la littérature de science-fiction. Ah oui, puis c'est vrai, j'avais parlé de ça tantôt. OK. Je tiens à le dire, j'écoutais cette semaine, encore une fois, Slash Film, on l'a fait référence quelques fois aujourd'hui, qui est un très, très bon podcast de cinéma que Nick me fait découvrir. Et puis, tu avais la critique du Prisonnier de Denis Villeneuve. Et j'étais toute curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle allait en dire, parce que c'est toujours curieux de savoir qu'est-ce que l'étranger dit d'un cinéaste d'ici. Ouais. Et puis, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était un super bon épisode de...
De Law and Order SVU.
Oh.
Ce qui est pas...
Non, mais genre, tu sais, un très bon épisode.
Un très bon épisode de Law and Order.
Parce qu'une semaine avant, ça parlait de Scar.
Puis en fait, l'argument d'un des chroniqueurs, que je suis pas capable de prononcer son nom, parce qu'il y a un nom bizarre, son argument, c'était on a tellement pas de bons films originaux, OK? On a tellement plus d'histoires originales qu'on aime automatiquement, dès que c'est pas une adaptation d'un comic book, ou un remake. On est comme genre, ah, ça doit être bon. OK? Ouais. Puis une des raisons pourquoi la TV est très forte, c'est quand t'écoutes une série comme, par exemple, je sais pas pourquoi j'en parle,
Breaking Bad.
Que j'aime comme ça.
Que je n'ai jamais vu. Donc je...
Bon, ben, c'est ça, tu peux bien être.
Moi non plus, je l'ai jamais vu.
Tu peux bien être insulté que j'ai pas vu d'ailleurs. Merci.
J'ai pas encore vu une minute de Breaking Bad.
Oh, les amis.
C'est the best fucking story ever. Bon, maintenant que c'est dit...
Non, c'est Battlestar Galactica.
Je peux pas dire ça, moi j'ai vu les deux. J'adore Battlestar Galactica. Mais c'est quand même best fucking story, c'est Breaking Bad.
D'accord,
hein? Breaking Bad, c'est fucking meilleur. Donc ce que j'essayais de dire, c'est que en fait, on devient un truc comme Breaking Bad, c'est original. Tu sais, t'es pas dans une adaptation. La TV est plus originale que le cinéma,
oui,
clairement.
Et
beaucoup plus intéressante à la limite.
Et donc, District 9, c'est peut-être un peu de ça aussi au niveau de la science-fiction. On est comme genre, waouh, c'est un truc original. Est-ce que tu sais, c'est comme Moon qu'on aime beaucoup. Tu sais, c'est des trucs qui nous rafraîchissent parce qu'on est comme genre, au moins quelqu'un essaie de nous raconter une histoire qui est pas genre un fucking truc
ben,
comme
remède
qu'on a vu mille fois.
Je réchauffe.
Raconter les mêmes histoires réchauffées depuis combien de temps? La télé a pris une longueur d'avance sur le cinéma, malheureusement, mais c'est ça qui arrive. Mais peut-être heureusement parce que ils finissent plus de nous raconter des histoires. Puis Chris, ils savent bien le faire.
Ben c'est
ils le font bien là, là. On veut plus que ça finisse. Un film, c'est une heure et demie. Une série télé. Peut durer 5, 6, 7, 8, 16 ans.
C'est comme un roman.
Mais c'est ça, on revient à l'histoire de l'écriture.
On revient
à l'histoire de l'écriture. C'est pas la même manière d'écrire. Tu développes sur une plus longue durée. T'sais, les personnages évoluent, machin. C'est un autre...
Tu t'attaches aux personnages, tu connais les personnages.
C'est une autre bête.
C'est une autre
tu peux
expérience.
Développer
bête,
la psychologie. Voilà.
Mais je pense pas que c'est une excuse pour que le cinéma... En fait... C'est une autre manière d'écrire. C'est super bon. J'adore la TV. Puis j'ai toujours aimé la TV, là, comme, même à la limite, quand c'était Dallas, j'aimais ça, tu sais. D'une certaine façon.
Oh là là.
François Truffaut aimait Dallas, tu sais.
François Truffaut, oui. C'est pas une référence.
Genre, oui, c'est une référence.
D'où tu sors ça que François Truffaut aimait Dallas?
Je ne sors ça de nulle part. Je sors ça de source
de nulle part. C'est, ouais.
Voilà. Excusez-moi, le fin africain commence vraiment à faire effet sud-africain.
OK, moi, je pense qu'il est temps de conclure.
Il est temps de conclure.
Je pense qu'on s'étale un petit peu
on
trop et qu'il est temps de conclure.
Un petit peu, mais tu vas arranger ton montage.
Moi, je pourrais-tu faire...
Vas-y, le mot de la fin.
Un apartheid.
Vas-y, Geneviève, on le voit.
Si on repense bien à District 9, on a... OK. Dans District 9, on a les humains, en fait, sont complètement stupides, font des moves non respectueux, n'écoutent pas. L'ensemble de la communauté extraterrestre sont stupides, n'écoutent pas. Et les deux seules exceptions extraterrestres et humaines sont Christopher et l'humain qui se transforme à un moment donné en extraterrestre. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que... Oui, ça revient exactement à la critique par rapport à l'apartheid, mais...
Écoute pas, Guillaume.
Mais c'est ça, on pourrait, est-ce qu'on pourrait dire que l'extraterrestre... non, l'homme est un extraterrestre pour l'homme.
Merci, c'est la fin. Tout. On arrête.
ça s'arrête plus à rien de dire quoi que ce soit rendu là.
On avait rendu là, on est d'accord.
Bon,
hey, j'ai chaud là.
J'ai chaud aussi.
Mais avant de vraiment, vraiment finir, il faut qu'on parle un peu de Podcast All Stars.
Oui, oui, bon, alors, ouais, passer, alors, hein? OK. Podcast All Stars, ben,
c'est
en fait.
Ceux qui ont rentré jusqu'à la fin. Ouais, voilà. C'est ça. Juste mentionner que c'est.
Ça se passe le 12 octobre. Ça va être en show. Direct à 18h sur le site des Mystérieux Étonnants.
Espérez pas qu'on soit plus sobre que ce soir parce que ça commence par un cocktail.
Voilà, c'est ça. Oui, et donc, c'est ça. Donc, on est. Il y a plein d'invités. Je n'ai pas la liste précise de qui sera là, mais en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs.
Écoutez, on va mettre un lien dans le.
Oui,
dans le site. Donc, décidément, aujourd'hui, allez lire notre blog.
Voilà.
Dans lequel il va y avoir.
Il y aura les infos.
Non, parce qu'on va avoir. Non seulement on va voir le court-métrage, ouais. On va voir une photo de Coquerel,
une photo live pendant le podcast.
Et surtout...
Man. La porn extraterrestre.
Oh yeah!
Un lien vers le podcast All-Star.
Ouais.
Et, mais je pense que l'idée du podcast All-Star, c'est juste de mettre en valeur tous les gens qui font des podcasts.
C'est ça.
À Montréal, ouais. Au Québec.
Ouais. Parce que c'est une bonne chose et puis on se réjouit d'y être.
Vous aimez les podcasts? Les Mystérieux Étonnants et Choc FM présentent la deuxième édition du podcast All Stars, une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuxétonnants.com le 12 octobre à compter de 18h. Le podcast All Stars, un rendez-vous à ne pas manquer.
Bien, si vous voulez vous abonner à notre podcast, vous savez où ça se trouve. Est-ce que vous savez où ça se trouve? Ça se trouve sur notre site 24quark.com, 24quark.com.
Quark. Et pas le S.
Quark. Sur iTunes, sur Twitter, on est @24quarks, pareil, 24quark. Et puis la page Facebook, bien sûr. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, à discuter avec nous. À nous laisser un petit rating sur iTunes aussi, et puis des petits commentaires pour nous faire monter.
Puis vous voyez, quand vous nous faites des commentaires sur de quoi on devrait parler d'un film, on vous écoute.
C'est ça.
Et merci d'ailleurs à tous ceux qui nous demandaient quand est-ce que vous venez, quand est-ce que vous
ouais,
venez. Ça nous a motivés, ça fait plaisir.
C'était très motivant. On avait tous hâte, et voilà. Geneviève, où est-ce qu'on peut te. Est-ce que si on a envie de te retrouver quelque part sur les internets, est-ce qu'on peut?
Oui, bien sûr. Ben, pour le moment, en fait, il y a un fan movie. Comme on parle de série, je pense que ça peut être très thématique. J'ai fait un film, en fait, c'est un fan movie à propos de Game of Thrones.
Yeah!
Donc, vous tapez dans YouTube A Tale of Benjen Stark, qui est en fait un peu quand Benjen part au nord du mur et qu'on ne sait plus ce qui se passe, et dans la série et dans les livres, ben c'est ce qu'on vous dit.
Alors, pour les fans de Games of Thrones, c'est super clair, puis pour ceux qui n'ont jamais écouté ça, c'est comme, ah, quoi?
C'est pas vrai.
Ceux qui ont fait ça, ils ont dit tout à l'heure quand même.
Oui, ben en fait, c'est fait au niveau visuel par Benjamin Von Wong et les frères McKinnon de Five Night Production.
Plug, plug, plug.
Et ainsi que nos merveilleux producteurs qu'on aime d'amour. Il y a les ateliers Nemesis, il y a Dracolite, il y a le duché de Bicolite.
Le duché de Dracolite.
Dirais que juste le nom de tous ces gens-là est tellement inspirant. C'est comme genre Dungeon and Dragon un peu trop.
C'est hallucinant.
C'est tout des films de science-fiction.
Mais tous les gens qui sont comme Némésis, qui sont des bons amis à moi, en fait, sont des gens...
Attends, non, c'est ton Némésis, ça peut pas être des bons amis à toi.
Non, c'est les ateliers Némésis.
Ah, les ateliers. Oui, ok, je comprends.
Font des armures et des...
Oh, wow.
Mon Dieu, c'est armure et... Épée. Ah oui, pour les grandeurs nature, mais ils ont également fait tout le matériel fourni pour le film 300 quand ils ont tourné ça à Montréal.
Okay, wow, okay.
Ils font également des énormes personnages plus grands que nature pour des événements corpo-spectacles. On les aime
gars,
beaucoup, Yann et Véro.
Les gars, il y avait des chaises vraiment trop, genre, cotes dans ce film-là.
Ouais, fixe tout ça, rendu là.
Non, moi, je pense que c'est du Jim bien assumé.
Fait que bref, A Tale of Benjen Stark sur YouTube.
OK, cool.
Partagez, partagez.
Le pire, c'est que je n'ai pas vu encore. Okay. C'est sur YouTube
mais
déjà.
Vas-y, vas-y. Mais on est presque... On a pété le 95 000.
Yeah.
Oh, en une semaine.
Je vais y aller, tu vas voir. Je vais mettre ça sur mon Facebook. Vous allez
Mais Geneviève Fontaine sur Facebook.
Ben voilà.
Il y en a pas tant.
Alors, écrivain Geneviève, Didi, on t'a entendu, puis ta voix, on l'a tellement aimé qu'on va être amis avec toi.
Et quelle voix!
Deviens ami avec des geeks. C'est une bonne action.
Mais j'ai déjà beaucoup d'amis geeks autour
de moi. Alors, rajoute-en, ça fait pas
plus
d'erreur.
Plus
c'est mieux.
Et toi, Marie-Louise? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur...
Bon, écoutez, moi, j'ai plusieurs présences sur Internet, mais je pense que la façon la plus simple, c'est carrément écrire sur le site de 24 Quarks, au Facebook, au Twitter.
Okay.
C'est vraiment, je suis là. C'est soit moi ou Nick. Devinez qui vous répond. Ça peut être un jeu intéressant. Sinon, j'ai mon vidéo Calia ou Marie-Louise sur Twitter, mais j'avoue que je m'en occupe pas beaucoup de ces temps-ci.
OK. Olivier?
Nick? Alors, Nick, où on te retrouve, toi?
Moi, je suis sur Twitter.
On te retrouve en manque de sommeil.
En ce moment, je manque de sommeil. Je suis pas très actif en ce moment sur Internet parce que je manque un peu de sommeil, effectivement. Donc, ouais, c'est Steady Nick sur Twitter. Sinon, c'est nickpetitlas.com.
Dis-moi pourquoi Steady Nick?
C'est parce que j'ai fait pendant pas loin de 20 ans, j'étais opérateur Steadicam.
Ah oui?
Ouais,
C'est donc, super intéressant.
Et puis voilà, je m'étais trouvé un petit nom comme ça rigolo qui était un petit peu mon trademark, entre guillemets. Hmm. Donc c'était ça, c'était Steady Nick, puis c'est resté un peu mon handle un peu partout. Voilà,
oh là là.
C'est ça, c'est de là que ça vient, vous savez toute mon histoire, c'est super.
Ça te rend
voilà, ça intéresse personne, donc et toi, Olivier?
Olivier, non, mais maintenant on te connaît mieux.
Olivier Sabineau sur Facebook. J'ai 23 adresses e-mail, mais vous en rappellerez pas d'une seule. Alors, allez sur Facebook.
Point de chute Facebook. OK, dans deux semaines, on se retrouve et ce sera pour voir un film d'animation américain de Pixar. Ce sera...
Notre premier Pixar.
Notre premier Pixar, mais pas notre dernier. Non, ce sera Wall-E.
Yeah!
Wall-E.
Eva.
Va falloir...
Excusez-nous, c'est, l'alcool a vraiment fait son effet. Donc il est temps de terminer.
Ce podcast est d'une gracieuseté. C'était des faits sud-africains.
C'est eux qui ont eu le meilleur effet, malgré toutes les thématiques qu'on a eues l'année passée. Hein.
Je vous dirais que, sérieusement, on a l'air sous-mort, mais on n'en a vraiment pas bu tant que ça pour quatre adultes alcooliques.
C'est juste qu'on a tellement de fun.
C'est vendredi.
On va se quitter avec la bonne annonce du film, comme d'habitude.
Eva.
Sur ce, merci à tous de votre fidélité et on se retrouve très bientôt.
Bye.
Bye bye.
Bye.
700 years into the future, mankind will leave our planet, leaving Earth's cleanup in the hands of one incredible machine. His name is Wall-E. After all these years, he's developed one little glitch. A personality. He's extremely curious. And just a little bit lonely. But all that is about to change.
Program complete. Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.